Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Avant de commencer l'émission, je vais vous demander plusieurs choses. Installez-vous confortablement, assis ou couché. Baissez la lumière et fermez les yeux. Bien. Vous allez maintenant respirer calmement et vous allez vous concentrer sur ma voix. Dorénavant, il y a ma voix et rien que ma voix. À chaque fois que je prononce un mot, à chaque fois que ma bouche émet un son, à chaque fois que l'air modulé par mon larynx se propage dans l'air, une partie de votre corps se détend. D'abord votre tête, au moment où j'ai dit « tête ». Ensuite votre cou, au moment où j'ai dit « cou ». Ensuite vos épaules, lorsque je dirai « pantoufle ». Restez concentré sur ma voix. Pantoufle. À partir de maintenant, votre position commence à devenir intenable. Vous avez clairement mal aux fesses. Non, ne détendez pas vos fesses, pas tout de suite. Vous avez donc mal aux fesses, ou au dos, ou au cou. C'est normal. C'est simplement à cause de votre matelas qui est tout pourri. Heureusement, les matelas Casper sont partenaires de Studio 404. Et ils sont très confortable. Mousse à mémoire de forme et régulation de la température, c'est le matelas du futur. En plus, il est livré chez vous. Vous pouvez maintenant ouvrir vos yeux. Il reste une image imprimée dans votre rétine, elle flotte devant vos yeux. Il s'agit d'un code de réduction. Vous commencez à le distinguer de plus en plus nettement. Il vous offre 55€ de réduction sur un matelas Casper. Ce code, vous le voyez maintenant, il s'agit de Spectre 360. Je répète, Spectre 360. Vous pouvez maintenant vous réveiller complètement.
Studio 404.
Studio 404.
L'émission de société numérique.
Studio 404, un podcast de qualité présenté par Lame UA.
Bonjour, j'espère que vous êtes bien réveillés, que vous avez des images subliminales dans les yeux et dans votre esprit. Bienvenue sur le Studio 404 de la rentrée du mois de septembre avec mes chroniqueurs et nos chers auditeurs qui sont arrivés en avance. Est-ce que ça va les auditeurs ou pas sur place? Alors, ils sont bien, ils sont chauds. Vous, chers auditeurs qui écoutez 404 dans votre voiture, au boulot, au WC, en faisant l'amour, vous ne le voyez pas, mais nous sommes très très bien installés. Nous ne sommes pas autant qu'aujourd'hui chez nos partenaires qui avaient une assemblée générale. Nous sommes allés squatter en toute simplicité chez Publicis Bastille. Voilà. On a viré les pubards, les commerciaux, les strategic planners. On a mis des poufs extrêmement confortables.
Squatter, oui. T'as un mot un petit peu abusé puisqu'on doit payer quand même notre prix. Alors. J'aimerais qu'on squatte, mais...
Bon. Nous avons loué Publicis, c'est pas
et
mal
ouais,
du tout.
Et
tout à fait.
Et ouais.
Pour cet enregistrement public. Et nous allons donc... je vois mon frère qui arrive, voilà. Mon frère qui est en retard, c'était comme prévu, il arrive. Est-ce qu'on peut applaudir mon petit frère Choukan qui arrive? Voilà. Voilà, vous écoutez ce podcast, mais vous êtes complètement dans les conditions du live. Nos chroniqueurs ont passé de belles vacances. On vous a laissé avec une émission extrêmement spéciale au mois de juillet, une émission d'auditeurs pour la fin août. Donc voilà, il est temps de revenir à la normale, ou presque, puisque comme vous l'avez entendu, en tout début d'émission, nous avons fait notre premier spot de publicité de l'histoire de Studio 404. Et ce n'est pas une blague, nous avons vraiment un sponsor. Il vend des coussins et des matelas.
Tout à fait.
C'est Casper. Spectre 360. Spectre 360. T'es content du code qu'on a choisi ou pas, Fibre?
Je sais pas, il faudra en parler à l'agence intermédiaire, mais En tout cas, je suis content qu'on ait un sponsor parce que ça résout beaucoup de problèmes de trésorerie. On a, c'est chouette. Et puis en plus, c'est, pas un, c'est un sponsor qui sponsorise beaucoup de podcasts américains.
C'est vrai.
Mais oui, mais donc,
donc on se la joue un peu à l'américaine.
Et avec générosité, il sponsorise C'est Cool, C'est Quoi et Trajectoire. Donc je suis au courant. Et si vous écoutez Trajectoire, il y aura des énigmes avec des oreillers et des matelas. Donc, on est très natifs.
On appelle ça du native advertising.
Ah, exactement, bravo. Voilà.
Non, juste pour revenir sur ce petit point sponsor, ça fait longtemps qu'on discutait avec des gens. Comme vous, certains d'entre vous le saviez, on ne voulait pas avoir de sponsor dit endémique, donc en lien direct avec 404, mais juste des sponsors cool qui se disaient, ben voilà, les contenus sont bien, on va se passer dessus. Et voilà. Et donc nous sommes riches, du coup, nous sommes très très riches.
Non, c'est un bien grand mot.
Laisse-moi rêver un petit peu. Bon, alors Fibre est content, voilà, parce qu'il a gagné de l'argent. Il en a dépensé un tout petit peu pour louer ce soir, mais on a gagné de l'argent. Et toi, Sylvain, comment ça va ? Sylvain, qui évidemment a rédigé, a pitché et a rédigé ce spot, hein, puisque
absolument.
Bravo à lui, hein,
que l'âme a découvert à l'instant. Donc la prochaine fois, je glisserai des petites surprises parce que c'est assez marrant. Je vais très bien. Et toi-même, l'âme, comment tu vas ?
Bah écoute, ça va. Vous m'avez manqué.
Ah oui, vous aussi vous m'avez manqué.
On dit pas assez aux gens qu'on aime qu'ils nous manquent.
C'est vrai.
Voilà.
Moi j'ai pensé à vous toutes les vacances.
C'est vrai.
Ouais.
Je trouve que t'as, ouais, t'as fait beaucoup de vacances d'ailleurs.
J'ai parlé.
T'as pensé beaucoup à poster tes photos de vacances.
J'étais
aussi.
Souvent en vacances.
J'ai parlé de vous dans mon journal intime.
C'est vrai.
Oui.
T'as un journal intime.
Oui, tout à fait.
Et
bah, sur Snapchat. T'es Snapchat.
Non. J'avais dit que je noterais sur 6 mes journées.
Ah, tu notes tes journées. Mais je crois que c'était que tes orgasmes.
Et,
que tu notais.
Et mes journées. Et également, humeurs. Je l'adjoins d'un compte-rendu de ma journée, un journal intime. Donc je dis, ah, j'ai hâte de retrouver mes amis du CIO 404. Sont-ils mes seuls amis?
Trois petits points de suspension.
Combien tu me mets sur 6, Fibre?
6.
Mais quel mytho.
T'aurais dû dire 6.
Non, mais je veux dire quelque chose. L'âme, il m'a appris des tas de trucs. Il a des sortes de maximes de vieux, tu vois, qui dit par exemple,
merci.
Si vous voulez réussir un seul projet, il faut en faire un million, tu vois. Et en fait, ça m'a vachement aidé dans la vie. Donc,
il va faire des motivational posters en fait.
Grave, je vais finir comme ça. Combien, Mélissa, combien tu notes sur 6 tes vacances? Qui avait l'air pas mal aussi.
Ah ouais, mes vacances étaient vraiment très bien. Bah, je dirais un petit 7,5 sur 6.
Ah ouais, d'accord,
c'est pas mal.
Direct.
On peut dire ça.
Over the top.
Ouais.
Daz, combien tu noterais tes vacances sur 6?
Oh, j'étais parti pour un petit 5,5-6, mais il y avait un chien là où j'étais, c'était relou. Putain. Les chiens, c'est dégueulasse, hein, vraiment.
Mais non.
Donc, du coup, j'enlève. Ouais. C'était un chien en plus qui s'appelait Toutou. C'est pas débile comme nom de chien, tu vois.
C'est vrai.
Tu le cherches
c'est pas de sa faute, hein.
Toutou, reviens. Non, franchement. Voilà, donc ça m'a enlevé un point, donc ouais, je suis à 4,5-5, allez.
Ouais.
Voilà. Mais sinon, c'était très cool. C'était
très bien. Très cool. Et Ghislain qui est avec nous, donc Ghislain, notre réalisateur et cofondateur de Qualité, que nous n'arrêtons pas de vanner, puisque maintenant, il travaille sur une grosse émission sur France Inter. On peut applaudir Ghislain. Ah, je te passe le micro deux secondes quand même.
Normalement, on dit pas ça, ça peut être, c'est la vraie vie, tu vois. C'est des trucs qui se cachent.
Il n'y a pas de différence entre la vraie vie et la pas vraie vie.
Et Internet.
Bah, et Internet.
Vous êtes
c'est la vraie
vous êtes,
vie.
Normalement, vous êtes ma respiration, tu vois.
Oh,
le nouvel album de Pascal Obispo, Vous êtes ma respiration. C'est parfait. On a déjà un titre. Ça va être très bien. Alors, c'est une formule à l'ancienne. Voilà. Pas de truc spécial. 4 chroniques. Beaucoup de ressentis, beaucoup de mauvaise foi. Ça va être très, très bien. Et on va commencer d'ailleurs très fort, puisqu'il y en a un qui est en colère. C'est Sylvain Palais. Il voudrait vous parler des adolescents et des gens qui parlent des adolescents. Très en colère.
Sujet numéro 1.
Les smartphones auraient tué les ados. Analyse de la théorie qui rassure les adultes.
Et oui, je suis très très en colère.
Oui.
Très très en colère.
Oui.
Vous aussi, vous n'en pouvez plus de ces ados le nez sur leur smartphone. Complètement accro aux messageries et aux notifications. Le monde extérieur, la vraie vie, n'existe plus pour eux. De mon temps, on fumait des clopes, on niquait la police, on se charcutait les genoux en skateboard.
Cul, ouais.
Et on aimait la vie, la fête et le sexe. Ouais.
Ouais.
Non, bah ouais.
T'as imité qui là ce coup aussi.
Et bah c'est de manière à peine exagérée que ce que je viens de vous dire, c'est un petit peu ce que nous raconte la démographe et prof de psychologie Jean Twenge dans l'article de l'été le plus partagé par les parents relous et connectés. Has the smartphone destroyed a generation? Vraie question.
Oui.
Ce papier publié sur The Atlantic nous explique dans le menu l'influence très négative des smartphones et des réseaux sociaux sur la génération
Y.
Non, pas Y.
Z.
X.
Z. Millennials.
Ah, Z.
La iGen.
Oh, c'est laid.
C'est horrible. PTDR.
I comme iPhone ou comme.
I comme iPhone.
C'est le truc qui était cool il y a 5 ans.
La génération iGen est née entre 1995 et 2012 Et elle n'a pas connu un monde sans Internet. Elle a vécu les smartphones et les réseaux sociaux et n'imagine pas le monde autrement. Les conséquences, vous le devinez, sont désastreuses. L'auteur nous explique que jamais elle n'avait vu des courbes grimper aussi haut ou chuter si profondément. Oui, elle est démographe, elle regarde des courbes, c'est son taf. C'est une véritable rupture. Cette génération ne sort plus, n'a plus envie de faire la fête, ne ressent pas le besoin de passer son permis de conduire. Elle n'est pas rebelle pour un sou et elle ne baise pas du tout.
Oh.
Et surtout, elle est terriblement malheureuse, dépressive, voire suicidaire. C'est vrai. La iGen, en fait, c'est une génération de puceaux assistés qui passent leur vie sur des messageries instantanées à débattre sur la meilleure manière de se foutre en l'air. En
c'est gros. Des blancs. On dirait. Que...
Alors, ce qui se passe avec ça, cet article, c'est qu'il sort de l'ordinaire un petit peu de techno-bullshit des consultants en marketing qu'on a l'habitude de se farcir et qu'on a l'habitude de démonter aussi facilement. Parce que cette fois, il y a des chiffres, il y a des études, et c'est écrit par une scientifique. Pourtant, il y a plein de choses qui vont pas. Alors, vous vous souvenez du jingle Metaforung ? Il va me falloir un jingle fact-checking. Les décodeurs par Samuel Laurent. D'abord,
Spectre 360.
D'abord, et l'auteur Jean Twenge l'avoue elle-même dans son papier, tous les liens qu'elle tisse sont des liens de corrélation et non de cause à effet. Erreur de débutant. Elle trouve dans une étude que les ados passent de plus en plus de temps sur leur smartphone. Soit. Puis un peu plus loin dans la même étude qu'ils déclarent être de plus en plus malheureux. Ok. Mais ce qu'elle ne précise pas, c'est que le cours de la banane a explosé sur cette période et que Christian Clavier a fait son retour au ciné. Bah oui, tant qu'à faire, pourquoi ça ne serait pas lié aussi ? Voilà. Ce qui m'amène au second point. Peut-être que le fait que cette génération soit endettée avant même d'être née et que de toute manière ils pourront jamais rien rembourser parce que la planète va crever et eux avec, peut-être que ça aussi ça a une influence dans l'équation. Non, c'est certainement les smartphones et pas du tout les facteurs socio-économiques, ça se saurait. Ensuite, j'ai triple croisé les sources. L'auteur se base principalement sur une seule étude. Et quelle étude ? The Monitoring the Future Survey, financée par le National Institute on Drug Abuse.
D'accord.
Alors, essayez de comprendre l'influence des smartphones avec une étude commandée par l'Agence nationale de l'addiction à la drogue. C'est, comment dire, un peu comme l'Observatoire de l'homosexualité en France, financé par Famille Chrétienne. Vous voyez un peu le biais. C'est un délire.
Objectivité sur 20.
Voilà. Donc, pour en finir avec le fact-checking, Alexandra Samuel, une chercheuse, toujours, relève que les collines et vallées que voit notre auteur Jean Twenge dans ses graphiques ont la particularité d'avoir un intervalle temporel précautionneusement limité. Si on prend cette même étude sur 20 ans, les collines et les vallées, elles se transforment plutôt en faux plats. Une technique de roublard des statistiques bien connue que le Samuel Laurent qui sommeille en vous n'aura pas manqué de griller à 15 km. Alors, pour rigoler un peu sur cette étude, moi j'ai questionné un membre de l'iGen français.
C'est affreux, iGen, je m'y serais jamais.
L'iGen FR, tu sais, on dirait un blog sur le jeu vidéo des années 90. L'iGen FR, pour savoir ce qu'il pensait de tout ça, pour l'anecdote, il s'agit du neveu d'un auditeur de Studio 404, ce qui en fait par extension un tonton de qualité.
Oh.
Donc j'en profite pour remercier Kevin, le tonton de qualité. Oui, Kevin, c'est plus un nom de génération Y que de iGen. Hein. Ouais. Alors, première chose, Gabriel, c'est son nom, ponctue ses phrases par MDR.
Ah ouais.
Donc déjà, je croyais que c'était un truc de vieux, mais bon, non. Et quand je lui ai raconté la théorie de Jean Twenge, Gabriel m'a balancé un...
Ça tourne mal.
Je pense qu'elle devrait un peu mieux observer MDR. Bim dans tes dents. Il trouve que ces études généralisent trop, qu'au contraire, tout le monde veut faire la fête à son âge. La déprime, c'est plutôt un truc de vieux, non ? C'est ce qu'il me dit. Hein. Ce que je préfère, c'est quand je lui ai demandé si, comme lui, ses parents passent aussi du temps sur leur smartphone. Et surtout, quand ils ont le nez dessus, est-ce qu'ils répondent immédiatement ? Il m'a dit, ils répondent pas du premier coup, MDR. Comme un peu tout le monde, mais après, ils répondent. Évidemment. Mais on va y revenir. Je pense qu'il est intéressant, avant de conclure, de regarder un petit peu les motivations de notre démographe de l'iGen. L'article publié sur The Atlantic, c'est une adaptation d'un chapitre de son livre en vente actuellement, intitulé, attention c'est long, iGen, pourquoi les enfants super connectés d'aujourd'hui grandissent moins rebelles, plus tolérants, moins heureux et complètement inaptes à la vie adulte, et ce que ça veut dire pour le reste du monde.
C'est un vrai livre.
Donc en fait, c'est un livre, mais c'est plutôt un titre d'article de Slate.
C'est tellement Slate Joker. Slate étant un site américain, c'est cohérent. Joker.
C'est bon, il a fait son point Slate, t'en as plus.
Donc il y en a deux dans l'émission.
Donc, I see what you did there, Jean Twenge. Elle nous offre un bon petit pavé alarmiste pour que les parents qui se battent au quotidien contre le screen time de leur charmante tête blonde. En marketing, on sait depuis longtemps, ce qui fait vendre, c'est pas le sexe, c'est la culpabilité. Et quoi de plus coupable qu'un parent face à un gamin en pleine crise d'ado ? Mais qu'est-ce que j'ai mal fait ? Jean Twenge, je t'offre une superbe échappatoire. Ce n'est pas de ta faute, Gwendoline. Ce n'est pas toi, Charles Guillaume. C'est les smartphones. C'est des noms de parents de blancs, t'as vu ? Mais je suis navré et j'invoque la sainte patronne Françoise Dolto pour me protéger du courroux des papas et des mamans de qualité. Si ! C'est votre faute. La sortie de l'iPhone, si elle a eu un impact sur une génération, c'est pas sur la iGen. Bah oui, la iGen en 2007, elle a pas acheté l'iPhone, elle avait 12 ans. La Facebookisation du monde, si elle a bouleversé une génération, c'est celle qui est autour de cette table et dans cette salle, pas une autre. Je vais jouer le jeu de Twenge. Si la iGen était malheureuse parce que leurs parents préféraient faire des tweets sur Twitter plutôt que de les élever correctement.
Hein ? Oh, ça accuse.
Mais ouais. Allez, je vais vous dire un truc. Du haut de l'aplomb de celui qui n'a pas de gosse.
C'est maintenant que tu n'as pas de gosse.
C'est pas grave, un gamin, c'est comme une start-up. L'échec fait partie de l'aventure. On ne réussit pas à tous les coups. Ce que vous pouvez faire déjà, c'est ne pas souscrire aux théories alarmistes qui ne sont que des rustines pour vous délester un petit peu de vos culpabilités. Au lieu de supprimer les smartphones de vos gosses, devenez leur mentor numérique. C'est votre nouveau rôle dans ce monde des technologies. Assumez, vous aussi, d'être accro au smartphone, mais expliquez-leur comment effacer leur historique.
On peut applaudir Sylvain pour cette première chronique alarmiste. Alors, on vous le rappelle, ce sera en lien, évidemment, sur le forum. Et donc, cet article était vraiment un des plus lus et le plus partagé de cet été. Il s'appelait donc « iGen » ou « Have Smartphones
Destroyed, smartphone destroyed Generation ».
Évidemment, The Atlantic, qui est un site un petit peu parfois conservateur, s'est régalé sur ce papier qui a été énormément partagé. Et donc, voilà, comme tu disais, ça a raconté un peu une sorte de génération de Tanguy qui passait plus de temps à chatter sur Snapchat, sur leur lit, sans bouger. Ils voulaient plus trop sortir de chez eux, ils s'en foutaient d'avoir le permis de conduire, l'indépendance, le sexe, bon, vite fait, la fête, bon, voilà.
Ils ont pas envie d'être adultes, en fait,
voilà,
tout simplement.
Ils étaient tous un petit peu malheureux, mais confortables, ce qu'elle disait, confortablement sur leur smartphone. Du coup, Daz, toi qui es le papa un peu de...
Le daron. Yeah, le daron. C'est le papa.
Alors, ouais. Je sais pas comment ça va s'appeler la génération de ta fille, qui est encore plus jeune que la hygiène.
Elle est un peu petite, ouais.
C'est peut-être la génération X.
Ah, mais non, attends, c'est quoi, c'est 95
2012.
92-2007.
Ah, non, okay. 95-2007.
T'avais dit 2012, moi.
Parce qu'en fait, j'ai entendu 2012 plus précis.
Alors, c'est 95-2012.
Ouais. Ma fille est née en 2012, bim.
Voilà.
iGen.
Ok. iGen. Ok. Voilà. Ok. Non, ouais, si... Enfin, je comprends le... Je dois jouer quoi? Le rôle du mec un peu de droite?
Tu fais quoi pour ta fille, globalement?
Non, mais pour ma fille, ma fille, elle a 5 ans, donc en fait, je lui dis...
Elle
n'est
pas malheureuse.
Elle est... je sais pas. Faudrait lui demander, tu sais, je...
Non, mais tu lui donnes des iPads, tu fais quoi?
Ouais, de temps en temps, ouais. Mais c'est vrai que si tu la laisses devant, bah, c'est niqué, tu vois. Après, pour le côté, oui, les enfants d'aujourd'hui, enfin, la iGen, il y a vraiment pas d'autre terme que ça?
C'est affreux.
Ok. Donc,
c'est
bon.
Problématique, ouais.
Donc, ces jeunes-là, ils sont plus Isidore que Riffraff, ouais, enfin. C'est normal. Non, mais c'est normal, parce que.
À la référence des super vieux, hein.
Quoi, vous connaissez pas les entrechats dans le public? Voilà. Donc Isidore, c'était le chat de
maison. Il y a
deux
vieux qui ont répondu, hein.
Non, mais c'est pas grave. J'explique le contexte. J'explique le contexte. Isidore, c'est un chat qui grandit dans une maison et qui règle tout son quartier, ok? Donc il est super vénère, mais il dort à la maison. Et Riffraff, c'est un mec qui traîne dans une décharge avec ses potes. Et pourquoi est-ce que nous, on était plutôt Riffraff? Parce qu'on n'avait pas moyen de toucher nos potes sans bouger de chez nous.
Oui.
Et c'est tout. Oui. Donc, à partir du moment où t'as tes potes.
Quand tu dis toucher tes potes, c'est...
Connecté. C'est toi qui a fait le parallèle, moi.
Je te pose.
Tu vois comment ça se passait du côté de Saint-Thé.
Non,
mais voilà, en fait, le fait que tu aies accès à tes amis sans avoir à te bouger le cul, bah du coup, bah c'est normal. Tu restes chez toi, t'es tranquille. Il y a de l'eau pétillante au frigo. Il y a Netflix, tout ça, tu vois. Bon, donc ouais. Moi, je trouve pas ça. Enfin, je trouve l'étude effectivement un petit peu alarmiste, comme si elle avait été publiée
pour faire plaisir aux parents
sur un site. De
droite
Non, pas le Figaro.
Pour vendre un livre.
Bon, The Atlantic, quoi.
Mais oui, voilà. Enfin, pour moi, ouais. c'est des trucs assez logiques, en fait.
Est-ce que certains d'entre vous autres, du coup, Fibre, Mélissa, peut-être vous avez discuté avec des ados, vu des ados en action récemment? Est-ce que ce sont des sortes de larves en PLS avec un smartphone
avec un smartphone? Mais le truc, c'est que ce qui est bizarre, c'est que ça a l'air d'être étrange pour la personne qui fait cette étude, alors que, enfin, on est tous autant, nous, qui ne faisons pas partie de l'iGen sur nos iPhones que ces ados.
C'est vrai. Est-ce qu'on a pas l'impression qu'ils décrivent un peu notre génération?
Bah, c'est ça. Et donc, je trouve ça étrange, en fait, d'essayer d'expliquer quelque chose qu'on vit tous. De 7 ans à 77 ans. En disant, du coup, pourquoi ce serait plus les ados que nous? Et on se sent pas malheureux, c'est juste qu'on vit avec ces trucs et que je pense que ça a changé des choses, ça a changé nos cerveaux, ça a changé notre physiologie. Mais après, tirer des conclusions sur la base de corrélations un peu foireuses avec une étude, évidemment, c'est toujours un peu compliqué. Mais il y aura toujours un public pour ça, donc elles sont toujours expliquées et publiées comme ça.
Fibre.
Alors. Je voudrais apporter un petit peu une petite nuance à les affirmations péremptoires en tant qu'homme qui n'a pas d'enfant non plus. C'est-à-dire que je pense quand même que les enfants, même s'ils n'ont pas l'âge pour aller sur Facebook, ils n'ont pas l'âge notamment pour aller sur YouTube, et je vais citer un exemple très concret que vous pourrez vérifier, ils y vont quand même. Et on a fait une émission spéciale Cyprien. Il y avait un petit gamin de 9 ans qui avait insisté pour venir. Et il lui a dit, mais toi, normalement, tu n'as pas le droit d'aller sur YouTube. Il dit, oui, mais ma mère a créé un compte pour moi. Donc, je crois qu'ils font ça. Et je crois qu'il y a un effet de pression sociale à l'école qui sont sur Facebook, que tu le veuilles ou non. Et souvent, ça m'est arrivé de faire des jeux de rôle sociaux avec des gens. Je suis leur enfant. Et ils disent.
Attends.
C'est, pas, ouais. c'est dans le jeu de rôle.
Déroule ton trade.
Je suis sa fille de 10 ans. Et je dis.
Attends.
C'est quel jeu,
est-ce qu'on peut remettre la musique d'hypnose là, attends. Deux secondes. Tu vas voir, ça va être super. C'est parti.
Je suis ta fille. Alors, tiens, on va le faire avec Daz.
Ouais.
Je suis ta fille de 10 ans.
Ok.
Papa. Je voudrais aller sur Facebook, je peux ouvrir un compte ?
Non.
Papa, tous mes potes à l'école, ils ont tous un compte Facebook, je suis la seule à pas l'avoir, on fait quoi ?
On fait rien.
Mais papa, je vais être exclu, ils sont tous sur Facebook, ils font des soirées ensemble, je peux pas aller avec eux, on fait quoi ?
Ils font des soirées à 10 ans ?
Ouais, ils s'envoient des messages, tout ça, moi je suis complètement exclu.
Eh bien, tu attendras d'avoir 13 ans, qui est l'âge légal.
Et là, ce qu'elle fait, ta fille, c'est qu'elle le fait dans ton dos, sans ton avis.
Le dos de qui ?
Ton dos à toi.
Et comment ?
Mais je sais pas, ils trouvent un moyen, les gamins, ils sont super intelligents.
Vas-y, explique-moi. Non, mais ça m'intéresse.
T'as jamais trompé tes parents ? T'as jamais fait le truc en cachette, Daz ?
Mais c'est Daz, quoi, il s'est configuré à l'ordinateur.
Mon daron, c'était pas un Golgoth comme moi, je suis un Golgoth sur. Alors attends, non,
mais si, c'est Golgoth mou.
Alors vas-y, explique-moi comment tu fais. Vas-y.
Quoi, mais j'en sais rien, je suis pas ta fille, mais ils sont super intelligents, ces gamins, ils peuvent aller dans les. Je jure, ils vont
dans les cybercafés.
Ouais, peut-être.
Bah oui, à 10 ans.
Non, mais peut-être qu'elle va aller chez un pote.
Ils ont une fiche S à choisir le roi. Bah oui.
Elle va aller chez un pote, c'est tout. Elle va chez un copain. Ah, oh, je peux aller chez Jérémy. Il
et
est
bien,
super
très
sympa.
Eh bien, non, eh bien, très bien.
Et elle
bien.
Fait son compte chez Jérémy.
Eh ben, elle fera son compte chez Jérémy. Par contre, elle pourra le consulter que chez Jérémy.
Eh ben ouais, et quand même, t'es baisé.
Bah non,
elle
parce
a son
que
compte.
Si effectivement elle passe 5 jours sur 7 chez Jérémy, je me poserai des questions. Normal. Mais sinon, bah écoute, en fait, elle ne le fait pas. Not on my watch.
Non, mais si ça se trouve, il y a un gamin, il a un smartphone à l'école et hop, et elle.
En fait, le propos,
c'est de te dire que d'une part, ils y sont, et d'autre part, c'est difficile de les empêcher
oui.
d'y être bah oui. parce qu'il y a une pression sociale
non, mais
énorme.
Attention. C'est comme à notre époque, t'avais toujours un perdu de la vie qui avait pas la télé chez lui, tu vois.
Oui, mais globalement,
il regardait pas Dragon Ball, il savait pas.
Études,
voilà.
Dans un précédent 404, on avait vu que l'âge moyen, en tout cas, de l'entrée sur Internet, le Facebook, les premiers pornos, etc., c'était 11 ans. Et qu'aujourd'hui,
les premiers pornos à 11 ans,
ouais,
putain, tu
vois.
En moyenne.
Et qu'aujourd'hui,
la barrière aussi fait que la plupart des adolescents qui rentrent au collège, donc en 6e à 11 ans, ont leur premier smartphone. Donc là, on est dans la préadolescence, de toute façon.
Alors, 11 ans, smartphone ?
Oui ?
Non.
Ah, bien sûr que si.
Eh ben, tu verras.
Ah bah, il y en a des ados.
Dans un an, ma fille, tu verras si t'auras ton smartphone.
Mais il disait, jamais jouer à PUBG, c'est nul, voilà.
Bon. Non, j'ai jamais dit ça. Bon.
J'aimerais quand même te fact-checker. Je sais pas si on peut faire un petit jingle fact-checking.
Fact-checking.
Samuel Laurent, les décodeurs. Pas besoin de limite d'âge sur YouTube, t'as pas besoin de créer de compte.
Si je...
c'était les décodeurs avec Samuel Laurent.
Bon, en tout cas, je sais pas, c'était une échange qui a eu lieu pendant notre émission.
YouTube, moi personnellement, j'ai à un moment donné, voilà, ma fille voulait absolument voir Peppa Pig.
C'est quoi ?
C'est un dessin animé avec un cochon.
Avec des cochons, il y a Peppa Pig Lang à Londres. On n'était pas prêt pour les enfants.
Un article sur Slate comme quoi il fallait pas qu'ils regardent Peppa Pig parce que c'est raciste.
C'est pas raciste.
Bah le jambon, tu sais.
Justement, c'est génial.
J'ai rien dit, j'étais pas là.
De quoi ?
C'est lui qui l'a inventé.
Je sais plus ce que c'est cet article là. Quelqu'un l'a vu dans le public ?
Fact-checking, il n'existe pas.
L'article ou Peppa Pig ?
Non, l'article qui dit.
C'est quoi ces rapports ?
Non, si les enfants regardent Peppa Pig, c'est pas bien.
Bon, stop, on dérape. Là, on en était à un moment.
Oui, alors
est-ce
non,
que
voilà.
Les smartphones déprime.
Non, alors attends,
une génération.
Je termine. Vas-y, s'il te plaît. Donc, elle m'a demandé d'aller. Enfin, elle voulait voir un épisode de Peppa Pig et j'avais pas Netflix à l'époque. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en tant que type intelligent ? Je lui ai pas acheté un DVD.
Tu l'as piraté ?
Je suis allé sur YouTube, effectivement. Je lui ai mis un épisode. Et après, j'ai regardé la barre de suggestions. Et j'ai repris l'iPad. Et je lui ai dit qu'elle irait regarder des trucs sur France 5.
Peppa Pig, ça tourne mal.
Non, mais parce qu'effectivement, YouTube, c'est pas du tout enfant friendly, en fait.
Hein. Mais il y a YouTube Kids maintenant. Ouais.
Ah, mais moi, je connais pas ça. Moi, je connais que le YouTube normal.
Que la plupart des gamins
ça, tu prends
YouTube.
Des bonnes pubs et tout, c'est cool.
Ouais, voilà, ouais. C'est ça. Bon, j'ai dit non, ok, c'est mort.
J'aimerais rajouter quelque chose par rapport à.
On revient dans le sujet après.
Oui, on revient dans le sujet là. Je plonge dans le sujet à nouveau. Un enfant. Moi, je pense qu'un ado qui va sur Twitter.
Ouais.
Qui est entre ados avec Twitter. Alors, c'est vrai qu'il y a des comportements toxiques, c'est vrai qu'il y a des casse-couilles, c'est vrai qu'il y a. Mais c'est la fête. Quand on dit les ados, ils font pas la fête, aller sur Twitter à 10h du soir, c'est la fête. Putain, tu retrouves tes potes,
Chibre.
Vous envoyez des vannes, Chibre. Vous envoyez des.
Est-ce que tu as déjà fait la fête étant ado?
Non, mais alors, tu vois, exactement, t'es exactement comme la nana qui a écrit le bouquin.
Ouais.
C'est-à-dire, oh, les jeunes d'aujourd'hui, ils font pas la fête comme nous, hein. Ils se retrouvent pas dans des booms et ils boivent pas, je sais pas, des boissons, tu vois. Non! Ils font la super teuf, ils sont sur leur lit.
Le mec, il sait pas du tout ce qu'il attend sur vous. Et boissons ou je sais pas ce qu'ils font. Voilà.
Je vis mon adolescence en ce moment, je vais sur Twitter et je m'éclate, c'est super cool.
Non, mais cela dit, pour aller dans le sens de Fib, il y a eu un article justement sur comment les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de papiers aussi qui disent les jeunes ne discutent plus, mais en fait, qui expliquait très bien comment, en fait, avec tous les outils qu'on avait, on parlait beaucoup plus qu'avant. Enfin, on échangeait beaucoup plus qu'avant quand on parlait juste dans la cour de récré et qu'on s'échangeait trois mots. Enfin, on apprenait à former un discours beaucoup plus intelligible grâce à tous ces outils. Donc, en fait, il y a le côté, enfin, je sais pas comment ils mesuraient le côté malheureux dans l'étude en question. Mais c'est vrai que s'ils le mesuraient par juste des ressentis en disant oui, bah,
j'ai une intuition.
Ils ont juste pas appris à parler, ils ont plus appris à écrire. C'est ce que disait ce papier-là à l'époque.
J'ai une petite intuition, c'est que être malheureux, c'est aussi être d'une certaine façon un attention war.
Ouais.
Et tout le monde veut l'être aujourd'hui.
Je vois ce que tu veux dire.
Quand on est
jeune,
c'est formulé maladroitement, mais il y a un truc.
Ah, voilà. C'est méga maladroit, j'ai pas compris.
Non, mais si, c'est vrai. Des fois, des gens disent, je suis pas bien, je sens pas bien, parce qu'ils ont besoin d'attention ou d'amour. C'est ce qui s'est passé régulièrement.
Quand ils le disent en public.
Sur des réseaux, quand on dit, bah voilà, oui, je suis pas bien en ce moment, ou je vais faire une petite vidéo un peu particulière sur YouTube, pour vous avouer des choses. Et effectivement, c'est un torrent d'amour et qui fait du bien, en général, à la personne qui publie ça. Mais du coup, tu penses que donc ce malheur, il fait aussi partie d'une attitude.
Ben on a un réflexe, le réflexe de dire bah non, ça va pas trop. Non, je suis plutôt malheureux, voilà, pour que capter l'interlocuteur. Parce que si c'est un sondage sur le bonheur des gens et que tu dis ouais, je suis super heureux, la fille elle va se casser. Ah bah non, je suis malheureux.
Das,
écoutez-moi.
Toi, Das, qui aime faire une grande veille sur les attention whore des réseaux sociaux.
Oh putain, ouais, j'ai.
Tu penses qu'on rentre un peu dans ce que dit Fibre en fait aussi. On déclare un malheur aussi parce que ça nous permet d'avoir une petite consistance parfois.
Ouais, mais du coup, c'est le contre-pied de ce que nous on faisait, parce que nous on a grandi dans un monde où il fallait toujours dire que tout allait bien, tu vois.
Ouais, bien sûr.
Quand c'est
bien
la merde,
sûr.
Tu vois, non, ça va. Ouais, ça
non,
va,
mais
ça
justement,
va,
c'est peut-être cette génération qui a une attitude autour de ça. Est-ce que cette génération est aussi malheureuse parce qu'il y a une sorte de comme dit Fib,
parce que c'est bien d'être malheureux, de
pas
dire
bien,
que tu
mais
vas chez ton psy.
C'est toujours une manière comme une autre, comme si on était un peu émo, quoi. C'est une manière.
Peut-être une extension du norme corps, tu vois, le dépressif corps.
Non mais en fait c'est ça. En fait c'est tu t'as utilisé le bon mot. C'est un côté un peu émo. Et je pense qu'en fait les réseaux sociaux, il y a une bulle de filtrage sur les réseaux sociaux qui ont été complètement investis et noyautés par les gothiques et les émos. C'est vrai. Il suffit de regarder.
Si t'es ado et que t'es pas émo, t'as loupé un truc, toi.
Non.
Je suis pas sûr.
Non, j'ai imaginé Daz avec une énorme mèche et du col.
Ado et émo. Non. Tu peux être plein d'autres choses.
Clairement.
Da, c'était le mec qui rendait ça.
Ouais, comme.
Tu peux être tout ce que tu veux. Non, tu peux être tout ce que tu veux. Tu peux être. Eh bien, ta veste.
Tu peux être le mec qui rend certaines ados émo. Tu vois,
Enfin, il n'y a pas de profil monolithique. Je veux dire, ok, on les voit plus, mais ça ne veut pas dire que tous les jeunes sont comme ça. Du coup, je ne sais plus quoi penser, moi. On est d'accord ou on n'est pas d'accord avec ce truc?
En fait, on n'en sait rien parce que son étude, c'est de la merde.
Ah, ben voilà, ok.
Et qu'il y a beaucoup d'études et qu'on n'a pas fait le fact-checking.
Il y a une étude qui peut être de la merde, mais il y a des trucs qui peuvent être intéressants à en tirer.
Ça, c'est vrai. Mais rien que sur les réseaux sociaux, le bonheur et le malheur, il y a aujourd'hui une étude qui va sortir qui va te dire. Les réseaux sociaux ça rend malheureux, et le lendemain une étude qui va dire exactement le contraire.
Oui.
Tu tapes étude dans la barre de moteur de recherche de Slate, tu vas avoir, ou d'un autre site, pardon.
T'as grillé ton
compte. Ça devient un réflexe, c'est chiant. Tu vas avoir toute une tripotée d'études qui disent tout et son contraire. Parce que,
cela dit, dès qu'il y a un phénomène qui est vraiment trending dans la société, tout de suite il y a des gens qui tiennent des propos alarmistes pour vendre des livres. On a vécu ça dans les années 90 avec les jeux vidéo typiquement. Et aujourd'hui tout le monde dit ah, les jeux vidéo c'est trop bien, alors que justement il faudrait peut-être commencer à dire, maintenant que tout le monde s'est admis, de dire bon, les jeux vidéo. Il y a peut-être matière à discuter, mais à une époque, c'était vraiment.
Ouais, enfin, non, on discutait avec le CSA cet après-midi, c'est pas encore.
D'accord.
C'est pas encore gagné. Est-ce que dans le public, il y a des gens qui voudraient réagir par rapport à ce sujet
qui ont des enfants,
ont des enfants ou une expérience, ou qui eux-mêmes sont ados, ou qui aiment faire du roleplay de comme Fibre.
5-6
Je vois une main qui s'est levée. Alors, par contre, on n'a pas de micro sans fil parce que c'est une install de gitans.
Alors, venez nous voir.
Alors, no offense hein, pour les gitans, si vous connaissez des gitans ou si vous-même vous en
Le mec, il insulte des blancs à longueur d'émission et après, dès que ça parle de gitans, il s'excuse.
Les gitans, ils respectent, hein, c'est pas pareil.
Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Ethan, j'ai 20 ans, donc apparemment je suis un iGen.
Est-ce que t'es content quand iGen déjà?
Justement, le truc, c'est comment on peut mettre les gens entre 95 et 2012 dans la même truc, quoi.
C'est le paragraphe que j'ai supprimé, mais
mon petit frère, il a 11 ans, on n'est pas de la même génération, quoi. Ouais. C'est complètement différent.
Est-ce que tu aurais pu faire ton petit frère?
C'est-à-dire.
J'ai pas compris là.
Alors, mets la musique, on va faire un jeu de rôle.
Attends.
On va faire un jeu de rôle. Mets la musique, regarde-moi dans les yeux.
Non. La question c'est est-ce que ton petit frère pourrait être ton fils?
Oula. Attends.
Non.
Eh bah, donc vous êtes de la même génération. Voilà. Fin du débat.
C'est ça?
Mais non, mais c'est pas ça une génération.
Ah bah, si, c'est ça. Putain, ah bah, si, c'est possible. Ça. Si tu ne peux pas enfanter l'autre, vous êtes de la même génération.
Mais n'importe quoi.
Mais si. Mais c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que quelqu'un de 60 ans ne pourrait pas être mon père. Ah si, merde.
C'est pas ça, ça marche pas. Arrête,
ça marche pas.
C'est pas ça.
Okay.
C'est pas ça.
Bon, on revient au témoignage du monsieur. Du coup,
oui, alors, vas-y.
En fait, t'es énervé qu'on te mette dans le même sac que ton petit frère qui n'a rien à voir avec toi.
Oui, et puis même des mecs qui sont nés en 2012 qui ont 5 ans, c'est pas pareil que moi. Enfin, en l'occurrence, j'aurais pu l'avoir, quoi. J'étais capable d'enfanter, donc...
Au Mexique, ouais.
Ouais, au Mexique.
Okay.
Mais, enfin, tu vois, déjà ça, et puis ensuite, quand je regarde mes petits frères, j'en ai un de 11 et un de 13, déjà, c'est deux générations pour moi.
Toute une flopée d'iGen chez toi, quoi.
Ouais. Mon grand frère a 22 ans, donc il est de 95. On est les quatre garçons, les quatre de iGen, tu vois.
T'as le modèle S, t'as tous les...
Ouais.
T'as tous les
S+. Plus.
Et, le truc, c'est que je vois mes petits frères, ils sortent pas mal. Enfin, ils sortent quand mes parents les laissent.
Ouais.
Après, ça parlait de pas de smartphone. Moi, mes petits frères, ils rentrent tout seuls de l'école, donc obligés d'avoir un tel.
D'accord.
Aha. Surtout qu'on habite dans le 11e.
Et ils ont un compte Facebook.
Alors non, mes parents veulent pas de compte Facebook pour eux. Interdit.
Ils sont caricaturistes. Ils ont.
Non, mais on habite dans. En fait, j'habite juste à côté. J'habite juste à côté de Charlie Hebdo et mes parents sont un peu stressés, donc.
Ouais, on peut les comprendre.
Tu vois, mais ils ont pas un.
Je veux dire, ils font pas du journalisme d'investigation.
Non. Mais.
Ok.
Alors, question, du coup, pour toi, qui est, le début de l'iGen et tes petits frères qui sont la fin de l'iGen, désolé, ce terme est affreux. Ouais. On peut dire autre chose?
Non, mais j'aime bien qu'on le dise.
C'est la même que génération Z aussi, non?
Génération Z?
Je sais pas, moi, je me fous ça bien profond. Parce que
iGen, juste point culture, c'est le nom de la boîte qui clone les dinosaures dans Jurassic Park. Voilà.
C'est vrai?
Ouais. Je vous laisse avec ça.
C'est assez classe, quand même, du coup.
C'est pas mal.
Culture de vieux. Alors, du coup, toi, t'es dedans, tes frangins sont dedans à chaque extrémité. Dans les grands lignes de cette étude, on parle donc d'adolescents qui sont plus confortables, mine de rien. Ils sont plus confortables. Ils sont aussi moins rebelles que les générations d'avant. Ils sont moins mobiles, c'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait une baisse de gens qui s'inscrivaient au permis de conduire à 16 à 18 ans. Et ils baissent moins, ils font moins la fête. Alors, raconte-nous.
Est-ce que ton petit frère de 11 ans baisse moins et fait moins la fête?
Non, il baisse pas.
Je ne sais pas.
Enfin, je ne sais pas.
Oui.
Après, celui de 13 ans, il sort pas mal, il commence à vouloir sortir, à se rebeller un petit peu, mais en même temps, c'est le début de l'ado, quoi.
Ouais.
Après, je vois pas trop de différence avec moi. Enfin,
ouais.
Bon, il a un autre comportement que moi parce qu'il a eu un ordi plus jeune et que.
Ouais.
Mais par exemple, quand tu parlais de YouTube, mon petit frère, il va regarder des tutos Minecraft sur YouTube pour aller faire des trucs dans Minecraft après, quoi.
Ouais.
Tu vois,
c'est celui de quel âge?
Les deux, en fait.
Ouais, d'accord.
Les deux,
okay.
Et.
À 13 ans, il a le droit.
À 13 ans, il a le droit. À 11 ans, il a pas le droit officiellement, mais bon, il a l'iPad de la maison quand les parents sont pas à la maison.
Il le fait quand les parents sont pas là.
Enfin, même quand ils sont là, quoi.
D'accord.
Mais le truc, c'est qu'ils sont très bloqués derrière l'iPad, ouais.
D'accord.
C'est un vrai truc. Quand on regarde l'iPad, ils sont plus là, quoi.
Il y avait une notion aussi d'ado dans l'étude dont Sylvain parle. On vous mettra le lien de cette étude où on disait les gens faisaient plus souvent le mur, par exemple. Enfin, il y avait une envie de sortir, une envie de s'émanciper. Et que maintenant, le fait qu'on ait sur Snapchat toute la journée ses potes à dispo, qu'on puisse toucher ses potes.
Isidore, moi je les appelle les Isidore. Voilà. Isidore.
Ils disent les ados d'aujourd'hui, ils s'éclatent en fait, mais ils s'éclatent effectivement allongés sur leur lit peinard à s'envoyer des photos bêtes, des petits chitres et
tout. Justement, moi je suis pas d'accord avec toi sur ce point-là, avec le truc, parce que mon petit frère, ce qu'il aime faire, c'est aller faire des trucs et faire des snaps pour montrer à ses potes qu'il a fait des trucs.
Ouais, encore mieux, j'adore.
Il fait des trucs, mais il en parle.
C'est comme Fibre qui fait des détours pour Instagram.
C'est ça, donc ce que disait l'article, pour moi, c'est... Certes, il est à la maison et il fait des filtres dégueulasses Snapchat où il envoie des trucs à des meufs et bon.
Ouais.
Et voilà. Mais après, il aime sortir et.
On dit
il
touche ses potes. Il touche ses potes.
Ouais, il touche ses
potes. C'est ça le bon wording.
Voilà, enfin, tu vois, mais je vois même dans ma génération, les gens de mon âge, en soirée, tous les iPhones Snapchat sont sortis et tout le monde veut montrer ce qu'il est en train de faire, quoi. Donc je suis pas d'accord avec le truc de l'article où, non, ils veulent pas sortir, ils veulent sortir, mais ils veulent le montrer.
D'accord.
C'est
encore pire, je pense.
Ouais.
Est-ce qu'on a une dernière réaction, pas parce qu'évidemment le temps passe très très vite, monsieur, allez-y.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va ? Super. Moi, je voulais juste revenir sur ce que tu as dit par rapport au fait que tu n'es pas de la même génération. Alors, je me présente, je m'appelle Adrien, je suis animateur périscolaire, donc je fais des colos et là, j'ai pas envie de dire iGen.
Ah si.
Si, si, t'es obligé. Putain.
Bon,
tu dois dire toucher tes potes à un moment aussi.
Est-ce que tu fais des colos 2.0 ?
Non.
Désolé.
iColo. Mais du coup, je voulais revenir sur ce que tu as dit. Tu fais partie de la génération de tes petits frères, que tu le veuilles ou non, dans le sens où ce qui vous différencie, c'est une question de maturité. Mais en soi, vous êtes influencés par les mêmes trucs. Tu vois, même si toi, tu as d'autres sans intérêt, etc. Mais vous vivez la même époque. La prochaine génération, c'est la fille de Daz, par exemple, de 0 à 5 ans, si tu veux. Eux, ils calculent pas ce qui se passe dans le monde. Tu vois. Donc, juste pour revenir à ça, donc oui, c'est la même génération. Ensuite, je suis d'accord avec Sylvain, c'est de la merde l'étude.
Ça, non, mais complètement. C'est unanime.
Enfin, moi perso, je considère que c'est de la merde. Alors, il y a peut-être des trucs qui sont vrais, etc. Moi perso, je considère que c'est de la merde. Pourquoi ? Parce que là, par exemple, je reviens de Tignes où j'ai fait 2 semaines avec des ados. C'est pas.
Alors, les ados, quel âge ?
Ados, tu pars 13-17 ans.
D'accord.
Donc, une vraie tranche d'âge.
La frange dure.
La frange dure.
Ouais.
Tu vois. J'en avais une 40aine et 70 suivant la semaine. Wow. C'est le taf, les gars. En gros. Il a raison, ils font des trucs, ils veulent montrer des trucs. La frange qu'elle décrit dans son étude, c'est une minorité. L'ado qui fait « je veux pas sortir ». Non, c'est vraiment une minorité. Mais en soi, genre, l'étude, elle dit juste « ah, les ados ». Non, c'est pas les ados, c'est des ados.
Ouais.
Ils sont du père. Ils sont complètement perdus, si tu veux. Genre, avant, tu rentrais chez toi, tout le monde te foutait la paix. Maintenant, tu rentres chez toi, t'as 20 messages de je sais pas qui, t'as 30 messages, t'as des conversations de partout. T'es toujours soumis à la pression sociale, en fait.
D'accord. Donc c'est aussi une forme de, je dis pas de malheur, mais c'est un côté noir aussi qui peut exister.
C'est un côté noir des réseaux sociaux dans le sens où ça les lâchera jamais.
D'accord.
À partir de la démocratisation de l'internet et des réseaux sociaux, les ados, ils sont plus jamais lâchés par les réseaux sociaux. Et comme vous avez fait le replay tout à l'heure, tous les copains à l'école, ils ont, et ça devient un argument.
Moi aussi, et s'ils se droguent, on les laisse se droguer.
C'est ce que mes parents me disaient.
Oui, mais on leur apprend à laver leur seringue.
Ils ont plus besoin de drogue, ils ont Twitter.
Et oui, ils se droguent. Hein.
Alors ouais, justement, dans ta colo, là, il y a eu du...
Ah ouais, j'ai chopé de l'alcool, et puis t'en as, ils faisaient des teufs. Hein. Tu sais, des trucs de teufeur, là, où tu te mets devant l'enceinte et tout. Ah, je peux te dire qu'ils touchaient leurs potes. Hein.
Je l'ai calé.
Ah, ça me donne de l'espoir en cette génération. Tu vois ?
Du
paiement sans contact, mais on continue quand même à
toucher les potes,
à contacter.
Du coup, voilà.
Bon, très bien. Merci beaucoup pour ce témoignage. Donc, on va linker dans le forum cet article. Comme ça, vous pourrez lire. En fait, non, l'article est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'études. C'est effectivement, comme tu disais, Sylvain, la corrélation qui a permis de créer un peu. On pouvait dire ce qu'on voulait sur cette iGen.
Tu devrais créer un thread avec tous les articles de ce genre.
Pour conclure là-dessus, en fait, un gros problème, je l'ai pas dit dans la chronique, je voulais le dire dans le débat, mais c'est déjà le principe de génération. Quand on est démographe et qu'on fait des statistiques en 2017 et qu'on prend une tranche d'âge de 7 ans et qu'on dit je vais mettre toute la population mondiale là-dedans et je vais tirer des grandes conclusions sur leur comportement, c'est que t'as un souci, quoi. Aujourd'hui, t'as un Google Home qui peut te dire dans le moindre détail quand fibre optique lâche des caisses. Donc t'as un niveau de détail des données sur les gens qui fait que prendre une génération, ça n'a pas de sens.
Très bien. Et on va finir là-dessus et on va continuer cette émission avec une première FAQ.
FAQ.
Alors, on a demandé aux auditeurs qui sont sur place de nous poser des questions. Alors, sur toutes les questions qu'on a reçues, 60% concernent l'iPhone. Donc forcément, on va faire une FAQ sur l'iPhone. Cosmo Flash, peux-tu venir prendre le micro et nous poser ta question ? Bonjour.
Bonjour.
Alors, quelle est ta question ?
Ah, tu te la racontes moi maintenant, hein ? Ah, c'est pas Discord, hein ? Salaud !
Alors, ma question, c'était comment expliquer le iPhone X, 10, pardon, à ma grand-mère ?
Ah, alors, cher chroniqueur, c'est une FAQ, donc interdit de s'étaler sur la chose, on va pas commencer à débattre sur Apple. Vous devez expliquer à votre grand-mère l'iPhone X.
Je vais bien expliquer à ma grand-mère.
Vas-y.
Eh bien, tu vois ce que c'est un téléphone ? Tu prends le plus cher.
Ok, très bien. Réponse de fibre. Le plus cher.
C'est un Mélissa. Téléphone qui reconnaît ton visage.
Ok, Mélissa, pas mal aussi. Face ID. Sylvain Daz.
C'est un téléphone que tu vas payer cher aujourd'hui et dont tu te rendras compte de l'utilité beaucoup plus tard. Beaucoup, beaucoup plus tard. Et peut-être que tu ne seras pas là pour toi. parce que tu es une grand-mère. Il faut être honnête, à un moment donné, voilà.
Espèce de salaud.
Et moi, je lui dirais, ne me pose pas cette question, grand-mère, de toute façon, ta retraite ne suffit pas.
Quelle bande de salauds. Voilà, tu as expliqué l'iPhone 10 à ta grand-mère et je pense que tu l'as donné beaucoup envie de l'acheter. On enchaîne tout de suite avec la deuxième chronique avec, du coup, Daz, qui va sortir des fougères pour nous parler de PUBG.
Sujet numéro 2.
Prudence, fourberie et lâcheté. Bienvenue dans le monde merveilleux de PUBG.
Ah,
oui, c'est vrai.
PUBG.
Ah, oh, ce thème. Je suis bien là. Là, j'attends avant de partir au combat. Est-ce qu'il y a des joueurs ici de... Ouais, oui, bien sûr, mes compagnons de fougères là-bas au fond. Merci, merci Ghislain. Alors, en février dernier, hein, j'avais parlé dans ma chronique de jeux vidéo aussi, et j'avais donné la parole à la fils de pute, la Fédération Internationale des Super Skills Horse Pro Unis et Techniques, qui se lamentait du retour en grâce des jeux en couch co-op, c'est-à-dire les jeux auxquels on joue en mode local dans son canapé avec ses amis, et du risque donc concomitant de désamour des jeux en ligne. Comme un signe envoyé depuis les cieux par Grégory Lemarchal, petit ange parti trop tôt. Players Unknown's Battlegrounds, donc PUBG pour les intimes, est sorti un mois plus tard, en mars, pour sauver le jeu en ligne du marasme ludique dans lequel il était plongé depuis que les Russes ont accès à Internet à haut débit. Alors, si vous ne connaissez pas ce jeu phénomène vendu à 10 millions d'exemplaires en 6 mois, c'est beaucoup plus que Outdoor par exemple, laissez-moi vous en expliquer le principe. Attention, couchez-vous ! Voilà. Ça, c'est ce qu'on fait dans le jeu à peu près tout le temps. Pour le présenter un peu mieux, donc c'est un jeu de type Battle Royale. Donc il y a une centaine de joueurs qui sont parachutés au-dessus d'une île qui fait 64 km². Et au bout d'une demi-heure, il doit en rester qu'un seul de ces joueurs, ou deux, voire quatre, si vous jouez en équipe de deux, voire quatre. Pour s'assurer que les parties ne durent pas 3 heures, une zone sécurisée apparaît et se rétrécit au fur et à mesure que le temps passe. En dehors de cette zone, il y a du gaz qui tue les joueurs qui sont exposés. Et ça, c'est pour forcer les gens en fait à bouger et à rester dans la zone qui, elle, se rétrécit. Donc fatalement, au bout d'un moment, tout le monde se rencontre. Hein, donc les adversaires se rencontrent entre eux et rencontrent en général leur destinée. Alors, pourquoi phénomène, me demandez-vous? Eh bien, pour une raison simple, qui est que tout le monde y joue. Voilà, c'est tout.
Merci d'analyse.
Voilà, c'est fini. Analyse Non, c'est un jeu qui est encore en alpha, donc c'est un early access. Et en plus des 10 millions de ventes, ce qui pour un jeu en alpha, donc pas encore officiellement sorti, est assez incroyable. Et ben c'est qu'il a passé ce jeu en début septembre, le cap du million de joueurs concurrents, c'est-à-dire du million de joueurs connectés en même temps. Sur des parties.
Donc, ce qui est assez gigantesque.
Voilà, pour replacer dans le contexte, jusqu'ici, le leader incontesté sur Steam, qui est une plateforme de jeu, mais qui est la plus grosse plateforme de jeu PC, c'était un jeu qui s'appelle Dota 2 et qui comptait 750 000 joueurs simultanés. Et le second jeu de type Battle Royale, c'est-à-dire seul contre tous, il faut qu'il y ait qu'un seul survivant, c'est H1Z1 qui culmine à 85 000 joueurs. Donc là, on est à 1 million, ce qui est plus de 10 fois plus, c'est absolument gigantesque. La physionomie du jeu explique pourquoi on y joue, parce que quoi qu'il arrive, une partie, elle est pliée en 35 minutes. On joue pas pendant 6 heures, 35 minutes, c'est terminé. Et 35 minutes, si vous résistez, déjà, vous êtes pas mal. Et le nombre de joueurs connectés, donc 1 million, fait que la moindre partie, elle se trouve en moins de 10 secondes. Donc ça aussi, ça encourage les gens en fait à enchaîner les parties sans se rendre compte en fait du temps qui passe. Mais la vraie et l'unique raison du succès du titre, c'est pas ça.
C'est quoi?
Pourquoi est-ce que PUBG a pris d'assaut le monde des jeux militaires en vue à la troisième personne? C'est parce que ce jeu, aussi impitoyable qu'il puisse être, quand on dit c'est un jeu où en fait il faut tuer 99 connards, il est totalement noob friendly.
C'est-à-dire noob friendly.
Alors noob friendly, donc les noobs, c'est les gens qui n'y connaissent rien, ouais. C'est vous et moi en fait. Et ce jeu, il est totalement utilisable par des gens qui n'y connaissent rien. Pourquoi? Parce que déjà, il met tous les joueurs au même rang. Donc, contrairement à Call of Battlefield in the Duty of Honor, Players Unknown Battleground, il se contrefout de la fidélité. Il n'y a pas de leveling, donc on ne fait pas monter son joueur au fur et à mesure des parties qu'on enchaîne. On ne débloque pas d'armes, on ne débloque pas d'avantages exclusifs qui nous rendent plus rapides, silencieux, on vise mieux, etc. Pas de ça du tout. Dans Call of ou dans Battlefield 1, par exemple, débouler dans le jeu en mode online 5 mois après la sortie, ça s'appelle du suicide. parce que tout le monde est super vénère, ils ont tous des joueurs qui sont maxés, level 99, etc., avec des armes incroyables, ils connaissent toutes les cartes par cœur, et en fait, on se fait buter toutes les 3 secondes, on comprend pas ce qui se passe, et le seul truc qui nous fait tenir, c'est la perspective de pouvoir faire pareil à d'autres gens. C'est uniquement pour ça qu'on ponce ce type de jeu. En plus de ça, dans PUBG, deuxième point, quand on démarre une partie, on démarre à poil. On n'a pas d'armes, donc on est dans un avion, on saute sur une map.
Dans un avion avec 100 autres personnes.
Ouais, alors c'est un gros avion. On saute au-dessus de la map, on atterrit, et c'est à partir de ce moment-là qu'on doit essayer de trouver de quoi survivre. Donc, même tarif pour tout le monde, on est 3000 heures de jeu ou 20 minutes, rien au début, l'équipement, tu le ramasses à droite ou à gauche. Et à nouveau, grosse nouveauté dans un monde du jeu vidéo en ligne compétitif qui généralement ressemble quand même au monde du travail. C'est-à-dire que normalement, dans le jeu vidéo en ligne, en fait, c'est l'expérience qui prime. Et du coup, le problème, c'est de cumuler cette expérience et de décrocher ton CDI. Voilà. Donc ça, c'est un truc aussi qu'il faut noter. Ensuite, vous pouvez jouer sans être un PGM. Alors évidemment, le jeu il va faire la part belle au skill, au coup d'éclat, au tir dans la tête à 150 mètres, à des techniques de rockstar, comme on dit. Mais dans PUBG, du moment que vous êtes dans la zone safe, en fait, vous avez vos chances. Pas la peine d'être un Jedi, les gars. Vous avez juste, vous pouvez rester là et attendre que le temps passe. Moi, c'est ce que je fais, par exemple. ça enfile les frags du côté de Rozok. Ça monte au troisième étage pour sauter du balcon et passer par les toits à Pochinki. Vous pouvez vous enfermer dans un cabanon pendant toute la durée du jeu, en laissant les prolétaires faire le boulot et se régler entre eux. Concrètement, en jouant prudemment et en réfléchissant bien à ses déplacements et à ceux des adversaires, par rapport donc à plusieurs facteurs, la position sur la carte, la position de la zone, la trajectoire que l'avion a pris, eh bien, on peut finir bien classé sans tirer un seul coup de feu. J'en sais quelque chose. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous avouer une vérité simple, l'âme humaine est sombre. Une fois en paix avec cette part d'ombre, tout devient possible. Exemple typique de partie. Donc, au moment du drop du début, donc tout le monde est dans l'avion, tout le monde est au-dessus de la carte et on est en train de choisir où est-ce qu'on saute, où est-ce qu'on va, etc. Vous et vos 3 coéquipiers débiles, vous n'avez pas pu vous mettre d'accord sur un endroit où atterrir.
Non, j'ai l'impression que tu racontes tes soirées sur la JVT.
Ouais, c'est un peu ça. Et avec les mecs là-bas au fond aussi. Donc, vous sautez tous à l'aveugle comme des cons. En toute logique, vous atterrissez dispersé le long d'une ligne à peu près droite de 4 km. À peine posé, un de vos collègues se prend un coup de poil à frire en pleine gueule par un adversaire qu'il a vu se poser près de l'endroit où lui-même était en train de chercher une arme.
Il a une vraie poil à frire ?
Oui. La battée, saison, hein, quand même. Ça s'appelle une battée, hein, c'est la poêle à frire et elle est très très utile parce que quand tu la ranges, eh ben, elle protège ton derrière. Véridique. Voilà, donc votre ami atterrit et meurt tout de suite, boum, 96 adversaires à tuer et vous êtes plus que 3. Votre deuxième ami, lui, il a décidé d'aller faire cavalier seul et de montrer que c'est un top FR et il peut tuer plein de gens. Donc il saute sur Pochinki pour voir si la légende qui parle d'affrontement farouche dans cette petite ville située pile au centre de la carte est vraie. Spoiler, c'est vrai. 96 adversaires, vous êtes plus que 2. Vous regardez la carte, vous êtes pile dans la zone sécurisée. Le marqueur de votre dernier coéquipier vivant est positionné à environ 2 km et s'éloigne. Vous lui dites, attention là, tu cours dans le mauvais sens. Et il dit, ah oui. Et on voit le point sur la carte qui fait demi-tour. Donc c'est vraiment un débile. En l'attendant, vous n'écoutez que votre courage, parce que vous savez que c'est à plusieurs qu'on est plus fort, et vous décidez de vous cacher vaillamment derrière ce fauteuil, jusqu'à ce que la réduction de la zone ne vous force à vous déplacer. Voilà. C'est une méthode parfaitement légale, hein, puisqu'on peut la faire dans le jeu. Moi, j'ai baptisé ça le tactical hiding. Il y en a qui appellent ça la camp, je trouve ça un peu réducteur, donc c'est du tactical hiding. Dans le living room cosy du premier étage de cette maison, de longues minutes s'écoulent. Votre coéquipier continue sa progression vers vous, alors vous regardez sur la carte, c'est bon, il avance, tout va bien. Dans vos mains, un fusil à 2 coups, dans votre poche, 2 balles, et une canette de Red Bull. Sur votre tête, un casque de scooter. Il n'y a pas à dire, jamais le sentiment d'être en Europe de l'Est n'a été aussi fort. Un coup d'œil en haut de l'écran, encore 70 personnes vivantes sur la carte, tout va bien. Un bruit de moteur au loin. Un coup d'œil sur la carte, l'icône qui représente votre collègue ne montre pas qu'il est dans un véhicule, il est toujours à pied, donc c'est pas lui. Bon, très bien. Vous avez un peu chaud, vous tremblez un peu, vous risquez quand même un coup d'œil à la fenêtre. Une Dacia passe à 100 mètres. Soudain, elle vire de bord alors qu'une fusillade éclate. 4 joueurs en sortent, vous entendez les tirs, vous les reconnaissez à force de jouer, ce sont des fusils d'assaut, et ils semblent relativement proches quand même. Vous êtes pragmatique et vous dites que 2 équipes de 4 joueurs qui se croisent, ça fait potentiellement 7 adversaires de moins. Vous repartez, vous planquez, tactiquement, attention. Et soufflez un peu quand vous entendez un bruit de pas sur le gravier. Un charognard qui passait par là a entendu la fusillade et décide d'aller jouer les juges de paix. Lentement, vous vous approchez de la fenêtre, sans faire de bruit. Au bordel, il passe juste en bas de votre repère. Que faire ? Si vous tirez et que vous le manquez, vous êtes à peu près sûr que lui ne vous rattrape pas, vu l'équipement qu'il a. Si vous ne tirez pas et que lui fait n'importe quoi, il attirera à coup sûr les autres Golmuts qui sont en train de se tirer dessus autour de la Dacia. Vous regardez la carte, encore 52 personnes vivantes. Bon, votre frère d'armes n'est plus très loin. Il longe une route. Et soudain, l'illumination. Vous positionnez un marqueur sur la carte et expliquez à votre pote qu'il ferait bien de vous rejoindre en passant par là. C'est plus safe.
Tu la tires ton pote dans le gunfight.
À ce stade, votre pote n'a pas besoin de savoir que vous comptez sur son arrivée pour faire diversion, voire carrément pour le faire se battre à votre place. Parfois, les employés n'ont pas à connaître l'intégralité du plan du management. Vous ne dites donc pas qu'il risque de croiser quelqu'un. Ça pourrait gâcher la spontanéité nécessaire à l'entreprise. Vous repartez jeter un œil à la fenêtre. La Dacia fume sous les impacts de balles au loin. Personne ne bouge autour. Des petites caisses sont déposées, ce qui prouve que les gens qui possédaient de l'équipement sont morts. Parce que quand on meurt dans ce jeu, on laisse son équipement pour que les autres puissent le looter. Intéressant, des caisses à prendre, mais réglons le problème présent avant de penser à faire du shopping. Le silence assourdissant n'est interrompu que par un grincement de bois. Des pas dans l'escalier, au bordel. Vous vous replacez vite derrière ce fauteuil qui aura finalement été votre seul vrai ami pendant cette foutue partie de ce jeu de merde. Mais pourquoi je m'afflige ça, bordel? Il y a Fort Boyard sur la 2, putain! Vos mains sont moites, vos pieds sont poites. Des bruits de pas à l'étage. Ça se rapproche, ça se rapproche, ça se rapproche! Et d'un coup, à l'extérieur, le bruit de pas léger et l'insouciance de quelqu'un qui court sur le gravier, signe d'un joueur en train de courir vaillamment et nonchalamment. Un coup d'œil à la carte, c'est votre ami. La délivrance. Dans ce jeu, arrivé comme ça, hein, c'est qui voit gueuler « Bonjour, je suis là, venez me voir !» Les pas dans l'escalier s'arrêtent net, puis s'éloignent. Votre adversaire redescend. « Bon bah t'es où alors ?» Un coup de fusil. « Oh ben Dieu, je suis mort! Il y avait un gars dans la maison, t'es !» On joue parfois avec des provinciaux. Air faussement surpris de circonstances. « Ah bon ?» Vous descendiez vous aussi l'escalier pour voir l'ennemi en train de looter la caisse que donc votre collègue a laissée derrière lui. « Blam !» fait le coup de fusil que vous tirez dans son dos. Blam, fais le deuxième tir, parce que deux tiens dans ta gueule valent mieux que un, tu l'auras peut-être. L'ennemi est couché, votre pote dit « Gauche, 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 attention !» Vous pivotez sur votre gauche et croisez un second adversaire qui sort de la cuisine. Une cuisine bourgeoise, hein, je le rappelle. À cette distance, il va prendre cher, vous épaulez votre arme, visez le centre de gravité et clic, fusil à deux coups. Quel jeu de merde est la phrase que vous vous dites pendant que votre adversaire vous met en joue et vous abat froidement. Classé en top 20, en ayant tiré dans le dos de quelqu'un et sacrifié un des vôtres pour y arriver, c'est pas exactement de l'héroïsme, mais c'était foutrement jouissif, en plus de ressembler totalement à l'idée que je me fais du courage à la française. Pendant les 15 à 20 minutes qu'ont duré cette partie, vous vous êtes éclaté. Retour au lobby, on clique sur le bouton ready pour dire qu'on est prêt à jouer, et cette fois, vous vous dites que vous allez aider vos coéquipiers. Une bonne résolution qui, à n'en pas douter, s'envolera sitôt la partie débutée, comme vol au vent les brins de paille du côté de Yasnaya Polyana.
Ah, merci Daz, on peut l'applaudir. Oh. Très belle description de Players Unknown Battleground.
Ouais, super jeu, super super jeu.
Donc tout ce que Daz vous a raconté, c'est possible vrai. Dans le jeu.
Oui, 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 oui.
Donc c'est un jeu qui se passe en Europe de l'Est.
Alors c'est un mix ouais, entre l'Europe de l'Est, la préfecture du Val-de-Marne et c'est assez terne.
C'est un peu gris.
Ouais, c'est un peu gris, mais bon, la vie est triste là-bas. La carte est gigantesque, ouais. Donc 8 km de côté, c'est énorme. Et donc il y a 100 mecs qui doivent juste se régler. Du
et donc,
possible.
On peut y arriver théoriquement sans jamais tirer.
Et voilà, c'est pas la peine de savoir gérer le bunny hop, le rocket jump et tous les trucs de fou furieux. En fait, si vous savez juste être vicieux et malin, ce sont quand même deux qualités hein, que les hommes ont en général, vous pouvez très bien finir classé. Je dis pas que vous pouvez gagner parce qu'à un moment donné, il faut quand même poser ses roustons sur la table et montrer qu'on sait viser quelque chose. Voilà. Mais un top 3 sans rien foutre est parfaitement possible. Il y a des gens ici qui peuvent en témoigner. Hein. Ça arrive.
Bon, alors, Daz est amoureux de ce jeu où, justement, pour une fois, on ne fait pas la part belle aux exploits et aux prouesses. On n'est pas là pour être un héros qui va retourner tout le monde, etc. On peut y arriver en étant parfaitement français, comme tu dis, Daz, c'est ça ?
Français, tout à fait. Alors,
j'aimerais quand même, pour les gens qui n'y jouent pas et nos auditeurs qui disent « Tiens, j'ai envie de me mettre au jeu vidéo, ça a l'air cool », c'est pas un jeu pour noob. Moi, j'aimerais vraiment dire ça. Tu as suffisamment parlé. Maintenant, je vais expliquer pourquoi c'est pas un jeu pour noob. Si vous me permettez de faire un petit jeu de rôle, parce qu'on en a fait un tout à l'heure avec Daz. Tu veux mettre la petite musique, quoi. En fait, imaginez Daz qui rentre dans un saloon du Ku Klux Klan. Il y a que des tueurs, ok, qui veulent tuer tout le monde, tu vois. Il le voit et lui, il va au bar et dit ah les fraises. Et puis il se retourne et puis il dit avec la voix d'Eddie Murphy en VF, hey, salut les mecs, tu vois. Et là, tout le monde retourne les tables, tout le monde se flingue parce que tout le monde veut avoir le privilège de tuer ce mec. Et du coup, parfois, il y a beaucoup de gens qui meurent avant lui. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que en fait, vous avez ce jeu parce que vous connaissez. Enfin, il faut 200 heures pour savoir tirer dans un jeu de type Battle Royale. 200
c'est
heures
faux,
de pratique.
C'est faux, c'est faux.
Et ces jeux-là, en fait, effectivement, si tu restes coincé sous un buisson vraiment opaque, ben, ils te trouveront jamais jusqu'à ce qu'à un moment ils te trouvent. Et les autres, évidemment, comme ils jouent le vrai jeu, ils sont super stuffés. Et à ce moment-là, t'as aucune chance. Et effectivement, c'est un peu comme n'importe qui peut monter l'Everest. C'est-à-dire, vous, demain ou matin, vous pouvez être dans commencer à grimper l'Everest et vous allez mourir à 4 km du sommet. Vous êtes juste à 4 km du sommet, mais vous allez quand même mourir. Par contre, faire les 4 derniers kilomètres, eh ben, c'est, en l'occurrence, pour PUBG, 200 heures de pratique minimum.
Ouais, mais voilà. J'ai pas dit que tout le monde pouvait gagner, j'ai dit que tout le monde pouvait jouer.
Tout le monde peut lancer Dark Souls aussi. Hein. C'est, mais, par
oui, Henri Michel le fait très bien avec le succès qu'on lui connaît. Mais, moi je dis ça parce qu'en général, les jeux en ligne, ils sont un peu rebutants pour les gens qui n'étaient pas là en fait, au moment de la sortie. Parce qu'effectivement, les gens ont déjà pris de l'avance et c'est super dur de réussir à s'en sortir et juste de s'amuser. En fait, avec PUBG, on s'amuse même quand on se fait fumer bêtement dans une cuisine en Slovaquie. Eh ben on rigole. Non, Slovaquie, c'est oui.
J'aimerais juste ajouter une autre chose, c'est que là, Daz, il a joué le méchant. C'est-à-dire qu'il a tué son partenaire, ce qui n'est pas très cool. Hein.
Non, je ne l'ai pas tué.
Un pauvre petit provincial.
J'ai fait du mensonge par omission. Non,
mais
voilà. Bah, voilà,
ça j'ai joué à ce type de jeu et j'étais le provincial. Et franchement, le mec, il m'a dit, mais c'est quoi ce noob? Et le mec, il me flinguait. Parce que j'étais un boulet pour lui, tu vois.
Non, mais
c'est un peu la mentalité de, effectivement, à un moment, la survie, ça dépend de ne pas être avec des boulets. Et
Alors, est-ce que toi, Fibre, tu trouves que c'est contraire aux valeurs d'un bon jeu vidéo ou pas, d'avoir des sortes de réactions et des actes, dire réalistes?
Si je devais analyser le succès de PUBG en faisant une analyse que je sens faible, mais je la pose quand même parce que je ne l'ai pas vu. Je pense que c'est le premier jeu où on a 100 personnes en même temps. Et ça, c'est quand même 100 personnes dans la même zone de jeu qui interagissent pour ça.
C'est faux.
Quel est ton contre-exemple?
Joint Operation.
Quoi?
Joint Operations, Typhoon Rising, on était 128.
Bon.
Oui, en théorie, mais ça n'arrivait pas souvent.
Okay. Non, si, de partir à 128, j'en ai fait plein. Non,
okay. Écoute, dans l'opération.
En tout cas.
Écoute, j'y étais pas. Moi, j'y étais.
En tout cas, un jeu fun de 35 minutes où il y a 100 personnes. C'est la première fois qu'il y en a. Et d'ailleurs, c'est la première chose auquel on pense, puisque la techno est accessible, c'est une espèce de Counter-Strike, on va se tirer dessus. Voilà. Donc peut-être demain, on aura 100 joueurs sur des jeux à la Hearthstone. Ça va être un peu plus excitant à faire d'autres choses. Mais effectivement, pour moi, c'est le changement de paradigme très fort qui fait qu'il y a du succès aujourd'hui et je pense qu'il y en aura d'autres.
Mélissa. Donc Mélissa, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, Mélissa s'intéresse aux jeux vidéo, mais n'y joue pas. Donc,
je suis la noob.
Non, mais depuis 4 ans sur 404, Mélissa engrange de la culture jeux vidéo.
Grâce à Daz et aux autres.
Est-ce que la description que Daz t'a fait de PUBG, parce que nous on connaît tous plus ou moins PUBG, mais toi du coup tu ne le connais pas spécialement, la description que Daz t'en a fait, un, du type de jeu Battle Royale, et deux, du type de mécanique qu'il met en place et de mentalité qu'il met en place, qu'est-ce que toi tu en penses?
Alors moi déjà il m'a donné très envie d'y jouer.
Voilà.
Parce que ça avait l'air facile. Mais oui, après, c'est vrai que la remarque de Fib qui dit mais c'est pas si facile.
Franchement, c'est pas hyper accessible. On va pas
non, sincèrement,
merci,
sincèrement.
Non,
mais quand
réalité.
Tu mets plus de surtout temps à savoir quelle munition va avec quelle balle, si tu peux mettre un viseur x8 sur ce type d'arme, est-ce que tu dois te
redispatcher tes trucs avec tes potes? Juste toi pour répondre à ça, en général, les munitions sont posées à côté de l'arme avec laquelle elles sont compatibles. Déjà, premier truc.
Oui. Bon.
Non, mais surtout...
Deuxièmement, moi j'ai commencé ce jeu, attention, non, j'ai joué à ce jeu, j'y connaissais que dalle. C'est un pote qui m'a pris.
Mais t'as joué 2000 heures à jouer aux
jeux vidéo tout le temps.
Ça a rien à voir.
Si.
Elle a appelé Portal Trou, tu vois. Je veux dire, voilà où on en est.
Trou dans le mur.
Ça m'a donné envie parce qu'il y a un côté où tu peux, genre, aller juste faire ta vie dans un coin et,
et
attendre que ça se passe.
Exactement.
Parce que mon grand truc, ce que je vous ai toujours dit, c'est que je déteste mourir dans les jeux vidéo. C'est pour ça que j'y joue pas. Or là, il y a quand même une dimension de mort assez prégnante.
Disons que t'as 99% de chances de mourir à chaque partie.
Donc en fait, ce qu'on devrait faire, c'est que j'y joue pour voir si c'est vraiment facile. Et là, on verra si c'est vraiment facile.
On pourrait faire un PUBG spécial, Mélissa. Voilà. On doit sauver Mélissa. Elle est au milieu de nous quatre.
Mais, comme il est parti, clairement, je meurs. Hein,
extraction du VIP.
C'est ça, voilà.
Alors, Daz me tue, je pense, direct.
Non, il me fait tuer.
En me disant, ah, regarde, il y a Fib là-bas.
Tout coéquipier est un matelas, Casper, Spectre 360, entre soi-même et la mort.
C'est pas mal.
Voilà, tu sais à quoi tu serviras.
Non, mais franchement, ça a l'air vraiment cool. Ouais, et surtout, l'argument 35 minutes de partie, ça m'a convaincu.
Bah oui, ça aussi, parce que des parties de Battlefield qui durent 2h30, c'est vraiment chiant. Là, 35 minutes, si tu résistes, parce qu'en fait,
oui, ça peut durer 3 minutes.
Hier, on a fait une partie avec pourtant de très bons joueurs chez Webedia, et la partie, elle a fini en combien de temps là? En 3 minutes, je pense. Et
je crois que tu n'as pas tué une seule personne.
J'ai tué personne. Hier, j'ai tué personne. Ah, mais moi, je suis fidèle à mon motto, je joue comme dans la vraie vie. Dans la vraie vie, je ne tue pas. En ligne, je ne tue pas.
Sauf ton. Sans tuer, c'est vraiment très difficile de gagner.
C'est ça,
hein,
qui me fait peur. Alors, Sylvain. C'est que je sais que Daz adore les simus.
Oui.
Qui joue à PUBG parce que c'est un simu.
Non.
Et du coup, je pense qu'il agit dans la vraie vie comme dans les simus.
Donc si un jour c'est la guerre,
on est mal.
Je ferai pas équipe avec toi, mon gars.
Je suis français, monsieur. Oui, je suis français.
Je pense que si c'est la guerre, 404 ne sera pas le dernier podcast à survivre.
Non, c'est justement, c'est pas du tout un simu. C'est pas comme Arma ou tous ces jeux où en fait en sautant au-dessus d'un caillou, on se pète la cheville et puis on peut mourir, tu vois. Il y a pas de, tu peux courir pendant 20 km sans être essoufflé. Enfin, il y a pas de ration de survie. Ouais,
cela
à prendre.
Étant, tu te prends une balle, c'est bientôt la fin. Quoi.
Mais ça, c'est cool.
Ouais, c'est cool.
Moi, j'ai fait tous les mauvais choix comme d'habitude. Je joue à H1Z1.
Ouais, oui, c'est un jeu de merde.
Pareil. Donc H1Z1, pour les gens qui connaissent pas, c'est un autre jeu de Battle Royale qui est arrivé avant PUBG, ouais. Dont le mode Battle Royale a été créé par le créateur de PUBG et qui était très populaire et qui est plus arcade du coup.
Qui est plus arcade, qui est moins joué. Et par contre, j'ai adoré parce que c'est la première fois que je vois deux jeux concurrents qui sont des jeux indés quand même. Ouais. Avec une audience, on va dire, très mainstream, quoi. Ils concurrencent très fortement les jeux, les blockbusters. Et du coup, ils font des positionnements en termes de communication et de marque qui sont, bah, comme les marques. C'est assez marrant. Genre là, j'ai reçu une mise à jour de H1Z1 où le mec explique, bah, en fait, on a changé quelques mécaniques du jeu pour se différencier de PUBG. On va être plus sur de l'action, du dynamisme, essayer de rencontrer le plus de monde possible, moins camper, etc.
C'est horrible ce que tu me racontes là.
Mais je trouve ça, c'est ni horrible ni cool, j'en sais rien. Mais je trouve ça hyper intéressant, en fait, cette communication autour des jeux vidéo que moi, j'avais jamais vu auparavant.
J'aimerais rebondir sur cette remarque.
Si, et après, on passe aux auditeurs.
Qu'il y a pas mal de jeux free to play, même AAA qui sont un petit peu végétatifs face au succès de PUBG aujourd'hui et qui sont en train d'intégrer dans leur gameplay des modes Battle Royale pour
ils
ça.
Le font tous, hein.
Voilà, je Fortnite, pense à Fortnite, voilà. Ah, Fortnite,
c'est
par exemple,
c'est comme mettre une fonction story sur tous les réseaux sociaux, quoi.
Voilà. Exactement. Genre sur, fonction story sur Facebook,
ouais. Alors,
mais story LinkedIn.
Non, mais du coup, peut-être demain, PUBG sera exactement comme Counter-Strike. C'est-à-dire, des gens jouent encore au Counter-Strike ancestral, mais finalement, tout le monde s'éclate sur Overwatch et le Overwatch du PUBG est à venir prochainement.
Voilà, t'as mélangé beaucoup de choses.
Ouais, c'est compliqué, j'ai compris.
Bon, est-ce que dans les auditeurs, il y a des gens qui connaissent le jeu ou qui ne connaissent pas ce type de jeu? Et qui ont quelque chose à dire par rapport à ce que nous a raconté Daz dans la description d'une expérience typique de PUBG. Je vois une main qui s'est levée.
Bah, y a le mec qui a tué Daz hier. Hein.
Ah bah voilà. Non, ah bah voilà. Regardez, c'est un ex-coéquipier de Daz qui va dire enculé.
C'était toi.
Tu m'as sacrifié. Alors le micro.
Je vous rappelle que en fait à aucun moment on l'avoue, hein, donc la personne pense qu'elle est vraiment morte par hasard.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour tout le monde.
Alors joueur de PUBG.
Joueur de PUBG avec. Daz, notamment.
C'est pas trop dur.
Si, non, c'est marrant. C'est marrant.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est très marrant.
Non, j'aimerais venir sur quelque chose. Je trouve pas qu'en fait le jeu soit si noob friendly que ça en fait. Si tu prends le jeu et que tu le commences comme ça, t'as pas du tout envie de refaire une partie. Mais
ouais.
Vraiment pas.
Ouais, c'est dur. Hein.
T'arrives, tu spawns, enfin t'apparais sur la map. Tu meurs.
Ouais.
Tu refais une partie, tu meurs.
J'ai plus envie, là.
Mais du coup, le vrai intérêt de ce jeu, en fait, c'est d'y jouer vraiment à plusieurs en escouade. Et du coup, moi, j'ai découvert le jeu comme ça, en fait.
Donc, toi, t'as pas découvert le jeu en mode solo, genre moi contre le monde, j'ai pas d'amis, j'ai rien, je fais des merdes.
La première game que j'ai fait, c'était avec Daz et deux autres auditeurs.
Vous avez vu déjà, ça veut dire qu'on intègre vraiment absolument n'importe qui. Donc il n'y a pas de notion de ah, mais il est nul, il va nous ralentir ou quoi.
Oui, mais
dans ce game, t'étais pas mort.
Bah si, mais justement.
Non, mais même là, c'est-à-dire si on commence le jeu en escouade, on peut trouver un partenaire d'escouade, ouais, random qui lui va être un top FR, il va voir que t'as un boulet et il va te mettre une balle dans la nuque.
Non,
c'est faux. On a même fait l'inverse, je sais pas si c'était avec toi, on était à 3 dans une équipe et on a oublié de verrouiller l'équipe à 3. Donc le jeu, en fait, le système de matchmaking a mis un quatrième joueur qu'on ne connaissait pas avec nous. Donc forcément, on parlait pas avec lui, donc nous, on s'est mis d'accord pour sauter à un endroit. Le mec était à 8 km de là où on était. Il a passé toute la partie à nous rejoindre. Et une fois qu'il est arrivé, il nous a tous sauvés. Après, on est tous morts, et le mec, il a carré l'équipe, on a fini top 2 ou top 3, alors qu'on a rien foutu et qu'on s'est jamais concerté avec le gars. Donc c'est ça le bon esprit, parce que le mec aurait pu faire sa partie dans son coin.
Le mec,
il a décidé de venir.
Il aurait pu être toi.
Parfaitement. Voilà. Mais c'était un Anglais, un Anglais très sympa d'ailleurs.
Bah, pareil, la première partie que j'ai fait avec Daz, ils sont tous morts. Je les ai carrés jusqu'à la fin alors que je connaissais rien du tout au jeu.
Donc c'est quand même possible.
Gardien, en fait.
Donc c'est quand même possible.
Mais oui, c'est possible.
Ok, c'est possible.
Avec carte Kiwi.
Oh là là.
Oh la ref.
Référence de vieux.
Voilà, après tout, d'Isidore et tout ça, et refraf. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient réagir sur cette chronique ou des gens, mais par contre, qui ne connaissent pas, peut-être pas PUBG ou qui sont intrigués? Je vois une main se lever au fond, là-bas. Ouais.
Ouais, mais ça aussi, c'est un pubos.
Comment
c'est
on dit un pubgeos,
un pub. Bonjour, comment t'appelles-tu?
Showin.
Oh, quelle surprise.
Bon, déjà, désolé, Fibrin, je sais que t'avais choisi H1Z1. Faudrait que tu nous rejoignes un jour.
Non, mais j'ai PUBG sur mon Steam, il n'y a pas de problème.
Ah, t'as pas joué encore?
Je l'ai téléchargé pour le tester, mais voilà. J'en ai fait le tour maintenant.
Ah, oh bah oui.
Non, mais.
Oh bah oui, mais oui.
Moi, il m'a fallu 40 heures pour arrêter Elite. Voilà. Et du coup, j'ai 1800 heures de ma vie que j'ai pu consacrer à d'autres choses. C'est par rapport à toi. Non, mais par rapport à Daz, voilà, c'est ça.
Pour une fois qu'il fact-check correctement, t'as tout à fait raison. C'est vrai, il a raison. Bon,
petite confession, hein, le seul top 1 que j'ai fait avec ce jeu pour l'instant, c'est un mec qui s'était bloqué avec son buggy et j'ai tiré seulement une balle de fil à pompe. Hein.
C'est vrai.
Mais ça arrive aussi. On n'est pas à l'abri d'un coup de bol. C'est ça que je veux dire. La vie, le jeu, c'est comme la vie. La chance fait partie intégrante de l'expérience.
Moi, je voulais plus revenir par rapport au phénomène et à la réussite du jeu, en fait, sur les 10 millions de vues. Je me posais la question à la fin. Est-ce qu'aujourd'hui, pour qu'un titre réussisse, il doit être forcément sponsorisé et plébiscité par les streamers de Twitch TV?
Bah, c'est surtout le premier jeu. Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas précisé dans la chronique.
C'est le jeu le plus populaire sur Twitch aujourd'hui.
C'est un jeu qui n'a eu absolument aucune pub en dehors de Twitch. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de campagne, marketing, d'encart sur les sites spécialisés, etc. Tout s'est fait via les streamers, en fait, qui se sont tous mis à jouer au jeu et ont, drainé une partie des gens qui sont venus pour voir et qui ont été.
Pour répondre à ta question, un jeu qui est énormément Twitché, évidemment, il fera beaucoup de ventes, il va réussir. Mais il y a deux façons que ça se fasse aujourd'hui. Par exemple, il y a énormément de vidéos de Minecraft sur YouTube. Mais c'est pas parce que Minecraft a arrosé YouTube ou des YouTubers, tout ça, parce que c'est un bon jeu. Et là, c'est le cas de PUBG. Il est vachement bien parce qu'il y a une interaction avec l'audience. Les gens peuvent mourir facilement sans qu'ils se fassent taxer de mauvais joueurs ou par la. Bon, voilà, il y a des histoires. Non, mais c'est la relation streamer. Donc, il y a des histoires qui se créent en permanence. Donc, c'est très intéressant à regarder. On peut regarder ça comme un film de guerre. À présent, le jour est réussi qu'il y ait du Twitch ou pas.
Je suis pas sûr.
On verra.
Mais par contre, c'est vrai que tout le monde sur Twitch en ce moment joue à PUBG à tel point que quand il y a un mec stream autre chose, en général, il y a des gens qui le regardent parce qu'enfin. Il stream autre chose que
c'est la première fois depuis 34 mois que League of Legends est détrôné des charts. Voilà, pour des gens qui voulaient savoir. Oui, Chouin, tu voulais rajouter une dernière chose peut-être?
En fait, aussi, je pense pour ma part, le succès du titre en tant que tel, c'est sur sa construction du gaming, enfin du gameplay.
Oui.
Il y a une montée en pression en fait sur le cours de la partie quand la zone se réduit. Quand tu arrives à peu près à 20 joueurs ou autre, tu regardes ton compteur. En tant que joueur, tu sens que tu as tes possibilités, tes chances qui se multiplient, mais le risque aussi. Il y a une montée en pression qui te fait tout de suite appuyer sur le bouton play.
D'accord.
Une fois que tu es mort et que tu reviens au lobby, très rapidement. Une forme
d'addiction, on dirait.
D'addiction.
Cette génération addict aux jeux vidéo. La iGen, comme on l'appelle. Ou la Gen J, la PUBG.
La iGen PUBG.
On vous conseille, en tout cas, chers auditeurs, si vous n'avez jamais jouer du coup, ou au moins vu PlayerUnknown's Battlegrounds du coup, de vous y mettre.
Jetez-y un œil, c'est sympa. Vous regardez Trépêche ou Tréchasse en rentrant de soirée à 2h du matin sur TF1, mettez Twitch et regardez ce jeu, c'est pareil.
Mais est-ce qu'on peut jouer avec toi? Comment on fait?
Tu m'ajoutes sur Steam et puis boum.
Ajoutez Daz
sur
Steam. Et
après, vous ferez l'expérience de vous faire trahir par Daz.
Mais non, c'est pas
vidéo.
De la trahison. Mais
c'est
non,
un moment
mais
unique
non.
De la vie.
On a un groupe Steam qui s'appelle Qualité, je crois.
Oui, il y a un groupe sur Steam qui s'appelle Qualité. Si vous voulez tester le jeu, ça coûte pas cher, ça coûte 20 balles.
T'as un code réduction par
contre? Non, on le fait que pour les matelas et les ordinateurs moches.
Spectre 360.
Désolé,
Spectre,
je suis désolé. 360. Spectre. Mais venez, hein, venez jouer, c'est rigolo. FAQ.
Pour la deuxième FAQ, je vais appeler Alphonse parmi les auditeurs. Voilà, Alphonse qui arrive et qui avait une question pour nous. Alors, Alphonse, je te passe le micro. Bonjour.
Si vous pouviez fusionner deux services ou applications, lesquels ce seraient, du coup?
Uh-huh.
Ouais, je sais, moi.
Toi, t'avais dit que tu voulais faire LinkedIn et PUBG, c'est ça?
Foursquare et Swarm.
Super. C'est nul.
Génial.
Une appli pour les emmener tous au Mordor, c'est ça?
Deux services ou applications, hein.
Ouais, tu les fusionnes.
Ouais, moi j'ai une idée. Ouais.
PUBG LinkedIn, ça aurait été pas mal quand même, non?
Juicero
Et Bodega.
Et Bodega. Un distributeur de machines à jus super cher qui sert super à rien.
Voilà. Voilà. Et Bodega, c'était des mecs qui voulaient remplacer les petits comptoirs de.
Les petits robots de quartier, ouais.
Les petits robots de quartier.
Voilà. Ouais. Par donc, des distributeurs.
Ce sont des vraies startups, hein, d'ailleurs.
Oui, oui.
Juicero. Enfin, Juicero maintenant.
Le scandale de la Silicon Valley en ce moment, c'est ça. C'est ouais. Bodega.
C'est Bodega. Mélissa Fibre, deux services ou deux sites que vous voulez fusionner pour le LOL ou pour plus de praticité.
Alors, c'est pas le LOL, mais ça va être fait dans quelques mois, je pense. Sur mon Google Home, il me manque un truc, c'est acheter des trucs sur Amazon. Donc, effectivement.
Bah, ça va pas être possible,
mais c'est normal. Peux pas, parce que c'est concurrent d'Alexa.
Bah, on sait jamais. Donc, du coup, j'aimerais. Parce que Amazon, il veut vendre, dans le fond. Ouais. Donc,
Non, mais Amazon vraiment... ils sont alliés à Microsoft,
ouais,
en fait.
Exact.
Mais pas à Google.
Oui, peu importe. Mais bah, Amazon, si, il veut vendre des produits aussi. Et plus que des Alexa, il veut vendre des œufs et des BD, tu vois. Et j'aimerais vraiment pouvoir dire, OK, Google Home, achète ça, tu vois.
D'accord, sur Amazon.
C'est le sur Amazon, c'est le grand
donc,
store.
En toute simplicité, tu voudrais fusionner Google et Amazon. Ce serait plus pratique pour commander des œufs, quand même.
Ça reste vraiment mon problème.
Et pour commander des œufs, c'est plus simple.
Ouais, c'est vrai. Voilà,
si on pouvait avoir un seul grand groupe qui gérerait tout Internet, ce serait plus pratique. Bon,
on l'appellerait GAFA.
Facebook, alors, du coup.
On l'appellerait GAFA. Mélissa, est-ce que tu fusionnerais. Lesquels tu fusionnerais?
Mais non. Je fusionnerais Airbnb et Google Reviews.
Ah,
pour
oui.
Que quand tu trouves ton Airbnb, tu saches tous les restos qui est autour et que ce soit beaucoup plus simple que t'es pas, tu vois.
Ah,
t'es donc... pas à faire une recherche.
Limite, tu puisses choisir ton Airbnb en fonction des restos.
Oui. Ah oui, c'est
attends,
ah.
C'était quoi ta réaction que
pour faire une recherche.
Dis le mec qui veut acheter des œufs avec en fusionnant deux.
Non mais Google Home, c'est ma télécommande universelle. Il manque que ça et après j'ai tout quoi. D'accord. Donc c'est.
Mais donc tu peux même faire ça si tu fusionnes Airbnb et Google Reviews dans ton Google. Home, tu peux dire OK Google, trouve-moi le logement le plus proche.
Avec une chambre de fille de 11 ans et des tiroirs pleins, s'il te plaît.
J'imagine tellement Fibre en slip qui ne sort plus jamais de chez lui et qui parle à voix haute. OK Google, je n'ai plus d'œufs.
Je suis une petite fille de 10 ans et je n'ai plus d'œufs.
Non mais aujourd'hui je fais ma compta et mes menus avec Google Home. C'est-à-dire combien de calories dans un œuf, combien de, voilà. Et...
Mais attends, du coup avec ton juste, on digresse un peu mais vite fait. Avec ton Google Home, tu dirais OK Google achète des œufs ou tu dirais OK Google je n'ai plus d'œufs et là il comprend qu'il doit acheter des œufs par pack de 12.
Aujourd'hui dans Google que tu dises l'un ou l'autre, elle l'interprète de la même façon. Aujourd'hui dans Google quand tu dis je vais écouter un truc, ouais. Il comprend que c'est soit une radio en streaming, soit Spotify, soit Netflix. C'est d'une puissance.
Mais t'as dit elle, donc pour toi c'est
elle une a une petite voix féminine.
C'est d'accord. Toujours des voix féminines.
Non, tu peux
pas du tout.
Siri.
Moi Siri c'est un srab.
C'est un quoi?
C'est
quoi
mon gars sûr. Quand on me demande ce que je veux au kebab, je monte mon iPhone et c'est Siri qui parle à ma place. Un complet chef.
Un complet chef. Allez, on attaque tout de suite la troisième chronique et c'est Mélissa qui va nous parler de saucissonnage de notre réflexion.
C'est beau.
Sujet numéro 3.
Comment notre réflexion s'est-elle complètement morcelée?
Oh la drogue.
Bravo Angie, bravo.
Un thread a déroulé, une chronique a déroulé de Mélissa.
Alors j'avais commencé ma chronique comme chaque année depuis 5 ans par vous raconter mes vacances ou comment j'ai essayé de déconnecter. 1 sur 33. Je n'ai pas déconnecté, cet été j'ai appris à être scénariste. 2 sur 33. Je n'ai pas suivi de cours de scénario, je suis partie au Portugal et j'ai passé beaucoup trop de temps sur Instagram. C'était des vacances tranquilles, mais un jour la lune a décidé de passer devant le soleil. 4 sur 33. Accro à mon iPhone et au like facile, j'ai crié « Fais arrêter la voiture pour prendre une photo !» 5 sur 33. Mais je n'ai pas juste posté ma photo, il fallait qu'elle aille avec le reste du storytelling de ma journée. 6 sur 33.
Ça va être long.
Ça va être long, là. J'en suis au 6.
Non, continue, moi j'aime bien.
Je n'ai pas non plus filmé toute l'éclipse. J'ai découpé le moment en 2 photos pour pouvoir les dispatcher sur mes différents réseaux sociaux. 7 sur 33. Donc j'ai ajouté une légende, hashtag éclipse, localisation, Arifana, Portugal, température 19 degrés. 8 sur 33. Après, il fallait dérouler ma journée de rêve. J'ai donc publié une photo de ma sangria, une photo de la vue de la plage, 9 sur 33. Inséré ici un boomerang de vagues et de coucher de soleil, 10 sur 33. Vous vous rappelez quand on racontait des histoires, qu'on faisait des détours pour prendre des plus belles photos, un fibre, sur Instagram et avoir plus de likes, 11 sur 33. Aujourd'hui, on prend le temps de faire des plans en 33 parties. On appelle ça les stories. Ça fait des mois qu'Instagram a piqué l'idée à Snapchat et Instagram, du coup, a répercuté sur Facebook. 13 sur 33. On a tous vu des vies saucissonnées en épisode. Au fond, ça fait déjà 20 ans qu'on regarde des séries. 14 sur 33. Maintenant, on saucissonne nos vies. Avant, je postais une photo de plage. Maintenant, je mets une photo de ciel à 8h avec un sticker jeudi et la température. 15 sur 33. Une photo de mon mec qui part faire du surf à 14h et 3 photos du dîner à 20h. Hashtag foodista. 16 sur 33.
Ça supporte pas.
Le moindre épisode de vie qui pourrait susciter un tweet ou un statut Facebook devient une collection de tweets ou de statuts Facebook, 17 sur 33. Car désormais, l'esthétique ne suffit plus. Ce sont vos talents de scénariste qui sont jugés, 18 sur 33. On sait que les threads ont une durée de vie plus longue sur Twitter, 19 sur 33. Une amie influenceuse me racontait par exemple l'autre jour que ses stories Instagram, plus elles sont travaillées et plus elles sont vues jusqu'au bout, 20 sur 33. Et comme les outils sont limités, ça donne d'ailleurs un phénomène assez étrange, 21 sur 33. La répétition, comme les photos Instagram, il y a un mimétisme en fait, d'une story à l'autre, vous voyez toujours les mêmes images, 22 sur 33. Dès que quelqu'un trouve un truc malin, pouf, on se met à tous mettre des autocollants habilement suggérés par Instagram. Je ne sais pas si vous avez vu les craies récemment apparaître dans vos stories partout, 23 sur 33. Des masques comme sur Snapchat, boum, on est tous des chats un jour ou l'autre. 24 sur 33. Heureusement, il reste Fibre Tigre pour hacker Snapchat et faire des vidéos qui durent aussi longtemps qu'il le souhaite. 24 sur 33. Ceux qui quittent les miennes au milieu, sachez que je vous vois. 26 sur 33. Cette division de nos contenus, en fait, tient à notre amour du rebondissement et du storytelling. 27 sur 33. Avant, nous regardions des séries médiocres. Aujourd'hui, il nous faut Game of Thrones. 28 sur 33. Les stories sont donc un peu la Game of Thronisation de nos comportements sur les réseaux sociaux. 29 sur 33.
Costaud.
Dans le web d'avant, on écrivait des billets de blog au fil de la plume. Aujourd'hui, on calibre ses phrases pour écrire une série de tweets. 30 sur 33. On fait une série de photos pour construire le scénario d'un moment, d'une journée, d'une soirée. 31 sur 33. Mais pour l'instant, je trouve encore beaucoup que ça ressemble au feu de l'amour. C'est long et ça se répète, comme cette chronique. 33 sur 33.
Merci Mélissa. Est-ce qu'on l'applaudit de manière saucissonnée ou pas? Est-ce qu'on l'applaudit 3 secondes, on arrête, 3 secondes, on arrête.
3 secondes, stop.
4. Merci Mélissa.
Merci Mélissa.
Je compte sur vous pour partager en président à dérouler.
Bien. Ça fait comment d'avoir des applaudissements saucissonnés comme une story ou un thread Twitter?
Ouais, c'est à dérouler hein. Quoi. C'est des applaudissements à dérouler.
On notera que nos auditeurs sont vraiment ils sont forts. Hein. On a improvisé totalement.
Mais c'est marrant parce que j'avais jamais, mais vraiment jamais fait le parallèle entre les stories Instagram, Snapchat et les threads sur mais Twitter.
Sauf que t'as 10 secondes d'un côté, t'as 146 de l'autre et les gens saucissonnent le tout pour faire des histoires plus longues, des journées plus longues.
Un thread sur Twitter, c'est tu dois tout lire dans l'instant où c'est publié, c'est pas genre.
Non, il y a des gens qui mettent à jour petit à petit.
Ouais, mais pas pendant une journée. Moi, je rage quitte.
Ah bah, il y a Ned Sabès qui est un journaliste français de jeux vidéo très connu et ouais, qui lui met à jour. Par exemple, quand il suit un salon, dès qu'il a un nouveau jeu, une nouvelle preview, un nouveau il fait un thread.
Ça, je suis d'accord. Mais pour les gens qui disent justement à dérouler et puis qui racontent un truc qui leur est arrivé, si le mec il met une demi-heure à raconter le tweet numéro 2, tu dis oh, vas-y, c'est bon.
Il y a plein de threads hyper populaires où ça s'est joué sur 3-4 jours d'affilée, Daz.
Oh là,
vous avez pas vu ce mec qui voyait un gamin des cités faire des Warriors?
Ouais, c'était génial.
Ah oui.
c'était un des threads et des topics les plus populaires de ces dernières semaines et ça a duré plusieurs journées. Et les gens revenaient.
Mais là, c'était un shonen, c'est différent, tu vois.
Ouais. Mais un shonen, comme Mélissa le dit, saucissonné en petit tweet. Ouais. À aucun moment, le mec s'est dit je vais faire un vrai billet de blog ou des choses comme ça, quoi. Et on le voit aussi pour les gens qui suivent les snaps et les stories de Fibre, ça coupe par phrase de 10 secondes, ça coupe au milieu. Hein.
Mais non, maintenant, il fait des vidéos plus
c'est fini maintenant.
Oui.
Voilà.
Snap a enlevé le.
Enfin, les 10 secondes, ah ouais?
Non, ils ont fluidifié, c'est-à-dire tu fais toujours par 10 secondes, mais tu les enregistres à la queue leu-leu. Ce qui fait que, en fait,
c'est seamless.
Voilà.
Okay. Ah d'accord, donc tu t'arrêtes plus de parler, mais t'as comme cette limite de 10 secondes qui fait que les gens peuvent zapper de 10 secondes en 10 secondes.
Oui, voilà, c'est ça.
D'accord. Ok, mais tu peux pas plus longtemps parce que sur Instagram, je crois que c'est toujours un peu limité quand tu fais des
Instagram.
Bon, alors
Fibre ne veut pas y aller.
Oh là là, c'est un peu overrated. Hein.
Fibre en à peu près 10 minutes d'émission, il a fusionné Google et Amazon. Et il vient de faire fermer Instagram. Voilà, ça c'est
donc Facebook.
Qu'est-ce que vous pensez du coup de cette chronique de Mélissa et du fait que on saucissonne, on scénarise, alors, on fait des rebondissements non-stop, on morcelle tout ce qu'on partage.
C'était une chronique vraiment pénible.
C'était volontaire.
Et je
vraiment.
T'en remercie. Voilà, c'est ça. Parce c'était que t'as montré à quel point c'est à chier les threads. C'est insupportable.
Dis le mec, il nous a fait des vidéos Snapchat de 35 minutes par jour.
Il y a un truc que je comprends pas.
Divisé en 10 secondes.
C'est qu'on était d'accord que tweet longueur, c'était pour les déficients intellectuels. Et là, t'as des mecs qui se pointent sur Twitter et qui te font, ils te racontent leur life, quoi. Alors que ça pourrait faire un post de blog. Ce sont des gens qui n'arrivent pas à synthétiser une idée
une idée ou à transmettre une idée. Ils sont là pour combler du vide, pour faire les attention wars. C'est insupportable.
Mais Johnny, et tu fais exactement pareil sur Snapchat.
Voilà, j'attendais cette réponse. Ouais. Mais sur Snap, souvenez-vous d'une chronique de qualité sur Snap que j'ai faite où j'ai dit Snap, c'est de la real TV. C'est du vide total. Plus tu fais du vide, plus ça marche. Mais c'est, si tu appliques ça sur Twitter, au contraire, l'idée, c'était une idée par tweet. Dans ce cas-là, en fait, le corollaire, la conclusion de tout ça, c'est de dire que les gens qui font des trades parlent pour ne rien dire. Voilà. Et je vais même vous dire, pour moi, le trade, c'est vraiment mon détecteur à con ultime. C'est-à-dire que quand t'as un mec qui fait un trade, surtout je le regarde pas et je me dis, ce mec-là, il est inintéressant.
Tu vois, détecteur à con. Donc voilà, il y avait l'oreille de Bluetooth et maintenant il y a le trade. C'est les deux détecteurs à con.
Ah non, mais c'est sûr.
C'est bien, c'est bien. C'est bien.
Sachant que le mec fait des threads quand même toute la journée. Mais
bon. Sylvain, cette culture du à dérouler, qu'est-ce que tu en penses?
Bah, en fait, moi, ce qui m'étonne, c'est que si les gens font ça, ça veut dire qu'ils vivent sur Twitter et qu'ils cliquent plus sur les liens.
Oui.
Qu'en fait, toute la journée, ils sont sur Twitter et c'est cool et c'est leur vie. Mm. C'est triste quand même.
Bah, on s'est rendu compte que c'était plus dur pour des gens de sortir de Twitter pour aller voir un lien vers un blog que de rester sur Twitter et de dérouler les autoréponses qu'on se faisait pour créer un thread ou un topic qui sont du coup des posts de blog classiques saucissonnés.
Mais c'est assez dingue. Et du coup, moi,
Donc toi, pareil, tu trouves ça un petit peu triste?
Bah, je trouve ça un peu triste parce que.
Ils sont vieux.
Par exemple, Medium a été créé pour ça, quoi. C'est un ancien Twitter qui s'est dit, bah, en fait, c'est cool. Moi, j'aimerais avoir cette simplicité pour écrire, mais dans un format plus long. Et donc, il a créé Medium. Mais du coup, c'est con. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est que sur Twitter, ils ont toujours rajouté des fonctionnalités en fonction des usages des utilisateurs. C'est-à-dire que le RT, c'est nous qui l'avons inventé, c'est eux qui l'ont rajouté.
Le hashtag,
pareil. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire pour les threads là? Est-ce que
ils ont déjà lié les tweets entre eux?
Parce qu'avant,
tu mettais juste ces numéros.
Mais ça, ils l'ont fait sans penser qu'on allait utiliser cette fonctionnalité pour raconter des histoires.
Parce qu'il y avait déjà les stories avec où tu mettais des numéros.
C'était pour suivre une discussion à la base.
À la base, c'était pour améliorer le fameux reply,
la conversation
sur Twitter d'ailleurs.
Oui, oui.
Qu'est-ce qu'ils vont rajouter demain pour profiter de cet engouement du thread en fait? Je me demande.
Mais en plus, ça reste le bordel Twitter parce que des gens peuvent répondre à certains points du thread.
C'est illisible.
Moi, j'aimais bien justement ces ajouts bienvenus.
Toi, tu aimes bien les à dérouler, les fameux.
Ouais,
genre...
non, alors, les à dérouler. Après, le truc, c'est est-ce que l'histoire à dérouler, elle est intéressante ou pas?
On parle plus du format et de la manière de réfléchir et de s'exprimer.
Sur le format, je trouve ça cool parce que contrairement à un post médium, quand le mec, il en est à son sixième tweet sur 33, eh ben, le septième tweet qui va s'insérer dedans, ça peut être un commentaire d'un autre gars qui est très intéressant, ou d'une autre nana, attention, je sais pas, qui est aussi très, très intéressant.
Une femme malgache.
Ça peut aussi être un MDR, ou un gitan, par exemple. Ça peut être aussi un MDR qui n'a aucun intérêt, mais ce que je veux dire, c'est que tu as ce côté interaction, en fait, pendant que l'histoire se construit, ce que tu n'as pas sur Medium.
Donc ça t'aime bien.
Ouais, moi, les threads, franchement, le coup de la nana qui avait fait. Ah non, mais elle l'avait pas mis en trade, elle avait fait un tweet longueur, c'est la stripteaseuse là qui avait fait un week-end en Floride complètement hallucinant.
Oui. Un beau moment.
Mais il y a plein de trucs comme ça où des bonnes histoires de Twitter en trade, j'en lis souvent et c'est cool quoi. Il y a des trucs merdiques, je suis d'accord, mais il y a des machins. Enfin, le format se prête bien à ça aussi parce que malgré ce que tu dis, Fip, t'as quand même besoin de synthétiser parce que le sujet, t'as beau le découper en plusieurs morceaux, il faut quand même que chaque tweet il ait une portée en fait. Donc
mais c'est ce que disait Mélissa, c'est que comme dans une bonne série ou Game of Thrones, c'est que t'as une sorte de rythme de cliffhanger à chaque fois et chaque tweet a un impact.
Là, en l'occurrence, pour illustrer, c'était pas le cas.
Non, mais j'ai fait exprès de faire un truc bien vide pour qu'on voit que ça peut être très long et qu'en fait, ça, en général, c'était le mimétisme. En fait, quand j'ai vu toutes ces stories Instagram, tu vois vraiment les mêmes stickers, les mêmes trucs. Alors que dans des threads Twitter, c'est vrai que parfois, c'est vrai des vrais billets de blog saucissonnés en 25, quoi, avec du vrai fond où il y a pas de gras. Comme tout le monde fait des stories, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gras. Quoi.
Tout le monde
s'oblige à faire des stories, même sur Twitter.
On va passer la parole aux auditeurs, mais une dernière question pour vous. Du coup, cette morcellisation, ce saucissonnage, je ne sais pas comment on appelle ça, est-ce que c'est aussi une manière pour les gens justement d'organiser plus facilement leurs pensées, de raconter plus facilement des histoires, parce qu'on n'est pas tous auteurs doués, et c'est facile d'avoir plutôt un côté bento, plateau repas, où on remplit des petites phrases ou des petites séquences vidéo, et on a une structure un peu, d'une certaine manière.
Alors quand je fais des threads, parce que ça m'est déjà arrivé... J'écris toute une thread dans Notepad.
Tricheur.
Tout le monde fait ça.
Ça, c'est les pires.
Mais non, alors ça c'est vraiment de la saloperie.
C'est des mecs qui font ça avec
deux pages
Word. Mais non, mais parce que tu vas pas. Sinon, t'écris des fautes et tout. Faut trop lire un peu, tu vois.
Non, mais ça, moi.
Ça se prépare, les gars.
Non, mais tu peux écrire sans faire de fautes. C'est pas un souci.
Je rappelle que faites face à un planeur stratégique.
Non, mais l'intérêt du thread pour moi, c'est justement la spontanéité. C'est que en fait le troisième tweet, tu es
franchement les meilleurs stats du site, ils ont été spontanéité avant,
sur les
quoi.
Réseaux sociaux.
Bah, tout à fait, bah, tout à fait. Écoute, je suis team spontanéité, team bienveillance.
Bah je pense que le reste des réseaux sociaux, ils sont plus team représentation de soi, mais bon.
Ouais.
Chacun le team deux ambiances. Ah.
Est-ce que dans les auditeurs, il y a des gens qui voudraient réagir par rapport à cette chronique? Alors, je vois un monsieur là-bas qui me ressemble, qui va prendre le micro. Donc par rapport à ce fait qu'on morcelle notre réflexion dans cette merde et s'exprimer. Bonjour monsieur.
Bonjour. Je m'appelle Choukan et en écoutant votre réponse, je trouve que ce dernier sujet répond en partie au premier sujet.
Ouais.
Qui était est-ce que la hygiène avait une forme de dépression, et c'est aussi lié au deuxième sujet, parce que dans les trois sujets, dans les trois sujets, il y a le fait que Internet ou les jeux vidéo ou les réseaux sociaux développent une forme d'addiction en suscitant une envie très rapidement au degré max, sans jamais aboutir à une forme de satisfaction.
D'accord.
Et donc,
putain, j'avais même pas. Il est fort.
C'est ça qui mène à une forme de dépression. Donc, autant l'article était caricatural, mais ça amène des vraies questions. C'est-à-dire que il y a des vraies recherches qui montrent que les gens qui utilisent beaucoup Instagram sont plus dépressifs,
ouais.
Ou le fait que on est dans un morcellement du temps et une accélération de tout, où on a besoin de récompenses très rapides, avec les jeux vidéo aussi, et qui fait que les gens, parfois dans des plus jeunes générations, sont très rapidement, ont des problèmes de concentration, ou ne ressentent pas la même adrénaline qu'ils ont l'impression d'avoir sur les réseaux sociaux, ou sur ce morcellement... Donc
du contenu,
ouais. Donc voilà, c'est un peu pour faire la boucle. Mais du coup, toi-même, tu disais que c'était triste que les gens passent leur journée dessus, ou toi-même, tu disais que c'était un détecteur à con. Donc ça répond en partie à ce que vous disiez sur.
Ce sont des postures, bien sûr. Il est planeur stratégique, donc la tristesse, elle est là. Et il est freelance et il a Google Home chez lui. Donc,
non, mais pour moi, cette définition,
détecteur à con, voilà,
cette
quoi.
Définition de susciter l'envie en permanence pour jamais amener satisfaction, c'est la définition de la société occidentale au XXIe siècle. C'est la société de consommation, c'est Daz qui achète l'iPhone 1, l'iPhone 2, l'iPhone 3, l'iPhone 4 jusqu'à l'iPhone 10 et demain il achète.
Est-ce qu'on jouerait pas
11.
Du djembé là en jonglant?
Non mais c'est quand même ce qui nous fait avancer, enfin ce qui régit nos vies, c'est ça. C'est toujours aller plus loin sans jamais être satisfait.
C'est vrai. Du coup, il y a une non-satisfaction, même quand tu dis je vais planer mes topics, mes threads ou mes stories. Il n'y a pas de satisfaction à les publier à un moment? Ça ne s'arrête jamais? On est. Non? Mélissa, quand tu fais. Alors, Mélissa qui est plus spécialiste des stories Instagram, du coup.
Bah, si, il y a une satisfaction, parce que quand tu trouves un truc et que tu sais que tu as trouvé un truc, tu te dis genre c'est malin quoi, c'est un nouvel usage que t'as inventé ou quelque chose quoi. Ça change justement de tous ces trucs que t'as vu à répétition. Et je pense que quand t'inventes véritablement un usage, bah le premier mec qui a fait une story, enfin un thread pardon sur Twitter, il devait être content. Il a dû se dire genre j'ai un peu hacké.
Il y a 6 mois en temps internet, ça veut dire il y a 20 ans quoi. C'est-à-dire,
non bien sûr, mais à mon avis
c'est devenu vachement la mode.
En plus,
t'as quand même moyen de hacker ces trucs assez vite.
Ouais, mais ce qui est très pesant en plus dans le thread, c'est que c'est toujours pareil. Les gens disent bon il est temps que je vous parle des hamsters. Parce que je vois qu'on n'en parle pas beaucoup. Donc, trade 1 sur 233.
À dérouler.
Bon. La vérité sur les hamsters, parce que.
Je me suis toujours intéressé aux hamsters depuis longtemps.
Vous en avez tous lu des threads hyper intéressants.
Des fois, j'ai l'impression que c'est des copier-coller de Wikipédia. Hein. Les mecs, ils se font.
Non, mais il y a des threads, les plus intéressants sont effectivement les moments de vie.
C'est ceux qui tournent vraiment, parce que les trucs hyper boring, on les voit pas. Hein.
Mais c'est là où tu disais qu'il y avait un truc intéressant, c'est qu'il y a un storytelling vraiment. C'est qu'on crée tout le contenu qu'on fait maintenant. Avant, c'était un one shot.
Ouais.
Et maintenant, c'est toujours du à suivre, à suivre, à suivre, à suivre constamment, quoi.
C'est ça.
On essaie
avant,
de rendre
on avait des billets
un peu
de
nos...
blog vraiment où on, je pense que, enfin, vous avez tous eu des blogs ici.
Alors, non, mais la question.
On jetait un peu les trucs, on se relisait un peu et tout. Là, c'est vraiment, faut vraiment mettre des rebondissements, un peu de suspense.
Moi, la question que j'ai, c'est si demain, Twitter, par exemple, fait sauter la limitation des 140 caractères.
Ce qui a été discuté.
Mais jamais fait.
Voilà. Donc, est-ce que les gens qui seraient du coup capables de mettre l'intégralité du contenu de ce qu'ils veulent dire en fait dans un seul tweet, Est-ce qu'ils continueront à le découper, selon vous, ou pas ?
Non, mais en fait, les gens, ils vont là où il y a les gens. Donc, ils iraient, si jamais il y avait, genre, je sais pas, un...
Non, non, mais là, juste, MySpace, en termes d'usage.
Je pense que les gens seraient plus perdus.
Moi, je pense que les gens feraient des threads pour dire pourquoi la fin de la limitation sur Twitter, c'est de la merde. À dérouler.
en 146.
J'ai une théorie de la conspiration sur les threads.
T'as des théories, Fibre ?
Ah, ouais. J'en ai une tout à l'heure, mais là, j'en ai une de la conspiration. C'est, je pense que c'est les populations Tumblr, quand elles ont migré massivement et définitivement sur Twitter... Elles n'ont pas intégré que Twitter, c'était 140 caractères. Et alors elles se sont mises à faire des...
Ce fact-check.
Ouais, je croyais que Tumblr, c'était plutôt du partage d'images.
Ah, mais il y avait aussi des posts. Parce que les premiers threads, c'était quand même des posts, on va dire, fortement engagés politiquement, comme on envoyait sur Tumblr, tu vois. Et je crois que c'est...
Tumblr qui était aussi extrêmement...
Tu parles des SJW ?
Pas seulement. Je l'ai pas
non, mais
ça.
Sur Tumblr, ce qui était très friand aussi des comic strips et des panels en images en 3-4 étapes, qui était une forme de morcellisation
voilà, c'est ça.
Du contenu.
Donc, en tout cas, il y avait, sur Tumblr, on pouvait s'exprimer autant qu'on voulait. Et il y avait, il y avait quand même.
Mais les posts qui marchaient le mieux, c'était des posts très limités en termes de contenu. Voilà. Ça allait vite quand même.
Non. En tout cas, c'est la théorie de la conspiration.
Alors, ça, c'est la conspiration.
Dès pour finir juste avant.
Non, la conspiration, c'était que c'était des gens de Tumblr qui étaient venus sur Twitter.
En fait, Tumblr, c'est devenu ultra ringard. Ça s'est tombé dans la ringardise puisque ça a été racheté par Yahoo, mais il y a quand même une population très active et très créative.
Sylvain, il dit rien, mais il hoche.
Non, t'es pas d'accord.
Très vite, ça fait du vent.
Il y a beaucoup de porno sur Tumblr.
Tu te bases sur quoi?
Sur du feeling, c'est bon.
Ok.
Mais on s'en fout des études. Je sors une étude, vous la vérifierez jamais. De toute façon, en tant que je vous dis, c'était du feeling.
On va aller vérifier le nombre de
jobs chez The Atlantic. Je cherche des auteurs.
Non.
Attendez, juste parce qu'on est très en retard. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui voudrait encore? Il y a beaucoup de gens dans le public qui voudraient réagir. Alors, mademoiselle ici.
Ah oui,
bonjour.
Ouais, je vais faire vite. Bonjour, moi c'est Caroline. Moi, je trouve qu'il faut vraiment reconnaître un certain génie justement aux gens qui arrivent à bien gérer le morcellement. Ah. Je suis pas du tout d'accord avec le côté c'est détecteur à cons, désolé. Au contraire, genre effectivement, ça demande, je trouve, des skills de ouf en storytelling. Moi, par exemple, quand je fais un thread, c'est nul. Je fais comme Sylvain, je copie-colle mon truc dans Notepad et en fait, t'as zéro respiration, c'est mal morcelé, etc. Genre, ça se coupe au milieu des phrases et tout. Justement, les ados dont on parle, la iGen, il y en a qui gèrent le truc hyper bien et qui vont raconter des trucs qui sont pas forcément hyper intéressants, mais comme la forme est hyper bien foutue, c'est ça. Ils savent là où caler leur respiration. C'est comme des signes de ponctuation presque, en fait, ouais. De savoir morceler ça comme ça.
Et, en fait, est-ce qu'on est dans l'Alexandrin 2.0?
Non.
Non. Oh, mais on parlait d'iGen, je suis bien 2.0,
peut-être
ça va.
Peut-être une forme de prose. Ou une forme de correspondance épistolaire.
Non, mais c'est du scénario. C'est
Caroline nous dit qu'on passe de quasiment
de.
Oui, mais tu passes
de 12
pièces.
Tu crées des scènes, quoi. Tu crées des scènes, tu s'enchaînes, tu fais des cliffhangers, c'est vraiment de l'écriture de scénario.
Et on revient sur un des Maroni 404 qui sont. Les ados sont quand même plus doués que nous. Hein.
Moi, ça m'attriste vraiment que. Pourquoi vous... Mais parce qu'il y a cette partie préparation. J'imaginais pas que les mecs aient lancé Notepad pour écrire tout et découper ça.
Comment tu peux être aussi innocent et naïf, Daz?
Mais je sais pas, pour moi, c'était vraiment.
Tu as effacé 1000 fois ton tweet parce que t'apparaîtes pas de faire la même faute d'orthographe ou le truc à la con, franchement, tu fais ça. Mais c'est mal. Justement, moi, je préfère un truc avec des fautes d'orthographe, mais où c'est bien raconté, où c'est prenant, il y a un bon rythme, que ce que je fais moi qui est
nul. Est-ce qu'on n'a pas
parfois
même des fautes d'orthographe?
Donc tu sais que c'est nul, mais tu le fais.
Mais je le fais.
Non, mais est-ce qu'on n'a pas de la faute d'orthographe aussi volontaire? Il y a une esthétique aussi du brut dans Snapchat qui c'est fait à l'arrache, alors que c'est jamais fait à l'arrache, évidemment, qui est genre, je suis bourré, sauf que l'angle est parfait et tout. Et est-ce que sur Twitter, on n'a pas aussi le côté, j'ai fait des fautes d'orthographe, ou j'ai un espace entre le mot et la virgule pour faire genre
c'est. Mais si, clairement, moi je sais que je suis des gens sur Twitter qui vont à la fac, qui sont des masters, des trucs et tout, et qui écrivent vraiment, mais genre hyper mal, mais c'est fait exprès, c'est une esthétique du Twitter, du truc.
Bah,
bon,
l'éléphant
cool.
A fait tout son bis dessus. Hein.
Ouais. Donc là, on est dans presque. C'est de la novlangue, dites donc, les amis. Là.
Oh là là.
Ah oui.
Oh là là.
Ouais, je balance du buzzword.
Ouais, là, on est bon là.
En fait, c'est un peu une remise au goût du jour du langage SMS de genre des années 2000 où on était obligé, etc. Et là, ça revient, alors que moi, je me souviens qu'il y a encore 5 ans, fallait écrire bien, ça faisait nul d'écrire en mode SMS. Et là, de nouveau,
c'est vrai.
C'est pas du SMS, mais c'est une espèce de mauvaise grammaire exprès, quoi.
C'est vrai que des fois, je vois des tweets avec des mots abrégés, ce que je déteste. Je vois qu'il y avait la place de mettre le monde entier. Je compte, hein. Ouais, je compte des trucs.
Il compte les caractères.
Ah ouais. Tu sais, je fais un copier-coller dans Word et je compte les signes avec des espaces intégrés. Je fais l'enculé. Il a mis PDT au lieu de pendant, alors qu'il pouvait mettre pendant. Ou j'espère, SPR.
Ah, j'espère. Voilà, ah, ouais.
Et si je peux juste répondre à la question que tu avais posée, Daz, par rapport au fait que si jamais Twitter s'est passé en plus de 140 caractères et tout, regardez les textos. On continue. Quand on voit un truc, qui envoie vraiment un pavé
Enfin, je sais pas, mais ok. Bon, d'accord.
Ah non, moi je
suis pas représentatif de la. Non, mais en tout cas, moi, je en texto, c'est plus chiant d'écrire en abrégé que de laisser.
Non, non, je parle pas d'en abrégé. Je parle de genre d'envoyer 12 trucs. Messages.
Ah oui,
dans
des. Ouais. Bah,
tu sais, en mode genre, on se revoit où.
Ah ben moi, j'ai tendance à morceler, c'est vrai. J'écris une phrase.
Oui.
Et je pense que c'est parce qu'inconsciemment, tu te crées une sorte de rythme, tu vois.
Ouais, bien sûr.
Donc,
c'est
le
genre
dans Facebook Messenger qui appuie sur Maj et Entrée pour aller à la ligne.
Moi aussi.
C'est que les vieux, c'est que les. Non, je déconne.
Mais qui utilise Facebook Messenger sans déconner, quoi.
Que les vieux,
tout le monde, tout le monde, toute ma famille, tout le monde.
Voilà. T'as pas besoin de Maj.
Est-ce qu'on peut parler de I paragraphe?
L'I paragraphe.
Ah, c'est affreux. Merci, Caro. Un dernier témoignage. Je sais qu'on est à la bourre, Gislain est en panique, mais il y a plein de gens. Bonjour.
Bonjour, le 12. Je suis un petit peu la caution provinciale. Donc,
Il en faut, il en faut.
Non, banlieusard.
En fait, non, la vraie caution provinciale, c'est Fib, sauf que c'est une caution provinciale qui ne s'assume pas. Voilà.
Donc, niveau trade, surtout Twitter.
Parle près du micro.
Trade Twitter, plutôt. Quand tu es sur Twitter et que tu as un lien extérieur et que ton réseau, il se barre.
Ah, là, tu parles du fait de ne pas vouloir sortir de Twitter pour avoir la suite de l'histoire, par exemple.
Exactement. Tu t'es fait violer ton réseau et quand tu reviens en arrière, tout est mort. Quoi.
D'accord. Donc c'est intéressant.
Ça, c'est quelqu'un qui tweet en regardant les taux de transformation, tu vois. Et qui se dit, autant rester sur Twitter parce que je perds trop de monde avec un lien, quoi.
C'est vrai.
Mais c'est exactement ça. Tu passes sur un blog qui n'est pas optimisé pour lire ton paragraphe qui aurait fait
Je suis d'accord là-dessus.
Et du coup, la caution hardware fait que si tu restes sur Twitter, tout s'est préchargé et tu peux continuer à défiler. Si ça t'intéresse, tu continues. Si ça t'intéresse pas, tu.
Donc il y a un côté un peu captif, ergo. Mais au bon sens du terme.
C'est l'ergonomie. Ah,
on sort pas de Twitter, on n'a pas à chercher.
Surtout sur mobile, en fait, où ton Chrome va se relancer par-dessus et tout.
Mais ça veut dire que si demain Twitter, prospection, si demain Twitter, ils gèrent un peu mieux leurs embeds sur, au niveau de l'ergo, on arrêtera les threads et on ira lire tous les articles.
Je suis pas super d'accord sur ce point-là. Imaginons une côte de bœuf. Si tu manges,
j'imagine la côte.
J'imagine bien.
Voilà.
Est-ce qu'on peut mettre la musique, Gislain, de la côte? Fibre, tu es une côte de bœuf.
Si tu vas manger au chinois et que tu prends du bœuf aux oignons en morceaux, tu vas en manger beaucoup plus que si tu prends la côte de bœuf.
Spectre 3.
Alors que tu n'avais pas faim, tu vois. Enfin,
pas mal. Métaphorum, pas mal. Pas mal.
Ok.
Est-ce que c'est vrai ou non?
Oui, ouais. C'est vrai. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter dessus.
Juste. Ouais. Et pour le Messenger, je pense que c'est un manque d'empathie, en fait, de pas appuyer sur entrée pour que la personne qui soit en face n'attende pas que tu aies sorti ton gros pavé.
Ouais, là, on est loin dans le
et qui voit le truc tourner comme ça. Mais c'est
exactement.
Ça se trouve, il est parti, en fait, et le curseur clignote, et je suis deg.
C'est la même sur Slack quand quelqu'un est en train de taper au clavier, mais qui s'est cassé.
Il est
marqué mid-size typing.
Deux jours après, mid-size. Avec 12 messages, sinon c'est horrible. Genre,
l'enfer.
12 non lus. Ah.
Bon, je crois qu'on aura beaucoup à discuter là-dessus sur le forum, en tout cas, Mélissa, sur le morcellement et le saucissonnage du contenu et des choses qu'on publie et qu'on exprime. On va attaquer tout de suite la troisième FAQ.
FAQ.
Donc, la troisième FAQ vient de Gogo Rakoto. Il a rage quit d'émission, il a disparu, mais il nous a laissé une très bonne question, une classique, mais qui du coup fait encore plus sens aujourd'hui, entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle du coup. Là on peut se poser la question, lequel des deux va vraiment percer dans le grand public, puisqu'on a vu notamment Microsoft sortir
ses casques. C'est un non-débat.
Et Apple arriver en force avec son AirKit. Alors on commence par qui? Daz, t'avais l'air sûr de toi.
Ouais. Oui. C'est évidemment la réalité augmentée qui va gagner parce qu'elle est intégrée directement dans c'est une API d'iOS, donc forcément ça va être dans les téléphones de tout le monde, donc forcément voilà, fin de l'histoire. Alors qu'un casque de réalité virtuelle,
bien
ça coûte
sûr,
cher.
Dans le monde de Daz, tout le monde a un iPhone 10, c'est normal.
Non, ça marche avec les iPhone 6, mon petit bonhomme.
C'est vrai, je taquine.
Désolé.
Quelqu'un d'autre qui va gagner?
Moi, je vais répondre exactement la même chose en disant que maintenant c'est intégré dans Android grâce à.
C'est intégré, mais est-ce que c'est bien intégré?
D'ailleurs, je sais plus quoi. Et du coup, tout le monde l'aura dans ses téléphones, et donc, alors qu'un casque de réalité virtuelle, ça coûte cher.
Voilà. C'est marrant, ça me dit quelque chose.
Ça me dit quelque chose.
Mélissa Fibre.
Réalité augmentée, moi aussi.
Réalité augmentée aussi.
C'est classique, ça fait des années que je vous fais des chroniques sur à quel point j'aimerais avoir, vous savez, la projection de tout ce que font les gens sur le quai de métro. J'y crois encore.
La stalkeuse ultime.
Et non un casque de réalité virtuelle.
Le stalking augmenté.
L'homme qui a vendu son Oculus va prendre la parole.
Oui, alors pour faire chier un petit peu, soit l'un soit l'autre, soit ni l'un ni l'autre parce
merci
que.
Merci Fibre pour cette réponse. Non, juste, la Normandie te salue.
Juste, j'argumente parce que la réalité augmentée me semble avoir un petit peu d'avenir, mais cet avenir me semble quand même très loin. Et à l'heure actuelle, il y a quand même énormément de grosses sociétés énormes qui mettent le paquet sur la réalité virtuelle avec des gros budgets de développement, et il est pas impossible qu'il y ait notre Pokémon Go en réalité virtuelle qui arrive dans les années qui viennent avant que la réalité augmentée décolle. Donc ça
des gens seront renversés par des voitures.
Qui va gagner.
Fibre qui avait évidemment, Fibre qui avait prédit que le crowdfunding ne
marcherait jamais.
Et alors aujourd'hui, je dis que crowdfunding c'est 60% de jeux de société. 4% du crowdfunding, c'est un seul jeu de société. Ouais, super, bravo.
Bravo le futur.
Bravo le Kickstarter.
Non, mais ce qui se passe sur la cryptocurrency, c'est du financement participatif avec les
actions. Ah, donc on repasse tous nos chroniques passées, là, c'est ça le concept.
Okay. J'ai rien cité, moi, les gens sont assez lucides pour reconnaître où est la vérité.
Allez, on attaque tout de suite la dernière chronique avec Fibre Tigre, qui est très énervé ou très joyeux, ou je ne sais plus trop.
Sujet numéro 4.
Sur Internet, l'échelle de vos émotions de 1 à 10 devient une échelle 1 ou 10.
Oh, Fibre.
A-t-on perdu notre art de la nuance ? Alors, le lundi d'avant la rentrée, c'était très long, c'était il y a très longtemps, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était le dernier épisode de Game of Thrones. Et il y a aussi une tweet story TLDR d'un espagnol qui a été traduit dans toutes les langues et les opinions réseau ont été unanimes sur ce thread. C'était amazing, sauf pour ceux qui trouvaient que c'était plutôt de la merde. Cette polarisation ne vous fournit pas vraiment d'informations, mais elle vous est familière. Elle existe sur les réseaux sociaux et sur tous les sujets. Lorsqu'en 2010, le petit hipster à barbe a éclos, il était blasé, il avait tout vu. Maintenant, il a grandi et progrès énorme, il a un avis. Et cet avis, c'est souvent « amazing » ou « de la merde ». À juger l'humanité, notamment francophone, sur les réseaux sociaux, on n'a pas perdu notre esprit critique. Par contre, la nuance, le doute, n'existe pas. Et je dirais même plus, ils sont ringards. D'ailleurs, les systèmes de review populaires fonctionnent sur ce schéma binaire. C'est le pouce en l'air ou en bas de YouTube. C'est aussi le choix d'Eurogamer, qui donne maintenant 3 badges aux jeux vidéo plutôt qu'une note. Je le recommande, je ne le recommande pas. Bon. Alors, je vais dire quelque chose, l'âme n'est pas d'accord. Mais je vais argumenter, peut-être qu'il sera d'accord avec moi, c'est complètement subjectif d'une certaine façon, mais si vous donnez la liberté aux gens de noter comme ils veulent, par exemple sur jeuxvideo.com, vous allez avoir 3 notes. Vous allez avoir des 1 sur 20, parce que le mec qui met 1 sur 20, il dit c'est de la merde, ou ah non, mais il y a des mecs qui ont mis 20 sur 20, alors je mets 1 pour compenser parce que ce jeu, il n'est pas génial, tu vois. Donc tu as des mecs qui mettent 20 sur 20 par raisonnement symétrique, et tu as des notes médianes. Alors quand je dis médiane, c'est pas 10 sur 20, ça va être 10, ça va être 6, ça va être 14, mais en gros la moyenne de ces notes médianes va donner le caractère médian du jeu. C'est-à-dire une qu'en gros
chronique de trajectoire.
Finalement voilà, on va avoir 3 distributions de notes et pas un spectre étalé.
360.
Casper. D'ailleurs, vous qui avez 5 étoiles chez Airbnb ou Uber, c'est pas que vous êtes amazing, mais vous êtes juste pas chiant. Alors, d'où vient cette tendance à la polarisation du jugement ? Déjà, beaucoup de gens n'en ont rien à foutre de beaucoup de choses. Non, mais c'est vrai, tu viens de voir un épisode de Game of Thrones et tu t'en fous, en fait. Pourquoi tu vas juste... Tu vas pas te loguer sur Internet pour dire « bof », tu vois ?
C'est vrai.
Tu vas dire « amazing ». Et du coup, tu vas avoir un clan autour de toi de gens qui like ou alors qui s'en foutent, mais qui ont envie d'avoir un camp, tu vois ? Un peu comme les colos de vacances, c'est à bâbord qu'on gueule les plus forts. Il y a aussi une forme de nombrilisme. Finalement, quand on donne un avis extrême, on n'attire pas attention sur l'œuvre, on attire l'attention sur soi. C'est le paradoxe extrême du critique qui est lu car il est de plus en plus intéressant et au fur et à mesure qu'il devient meilleur dans son métier, on ne le lit plus pour l'information qu'il véhicule, mais pour ce qui et comment il le véhicule.
T'as raconté 404, là.
Voilà. En suivant cette logique, on pourrait dire que l'évolution Pokémon de l'opinion moderne se passe par le stade 1, critique professionnel, 2, éditorialiste ou expert BFM TV, 3, Twitto. Sylvain vous disait en 2008 que nous étions tous les promoteurs de notre marque personnelle. Nous sommes désormais les rédacteurs-chefs de tabloïds mensongers. Mensongers car la nuance est la substance de la vérité, et je m'y connais. Et pourquoi avons-nous banni cette nuance ? 1. Parce que la capacité d'expression de la nuance est restreinte. Sans caractère, un cœur, un pouce en haut, en bas, c'est pas l'idéal pour exprimer une opinion nuancée. Aussi parce que le mode de fonctionnement des algorithmes encourage la polarisation.
Si vous publiez sur Instagram une assiette de coquillettes jambon en disant « Voici mon repas de midi, j'hésite à mettre du gruyère », bah, tu vas avoir zéro like. Parce que as-tu oublié que tous les repas doivent être « amazing, pauvre fou ». C'est la même chose avec la culture du drama YouTube, hashtag « ça tourne mal ». Et enfin, dernier point, on est le reflet de ce qu'on mange. Et on mange du BuzzFeed, on mange du Slate. Et une titraille sexy pour des algos Google et Facebook qui forgent notre façon de communiquer. Instant théorie. J'ai une théorie. J'ai une théorie sur la vie.
Ah bah, tout simplement. Ah bah, allons-y.
Tout simplement.
Vite fait, mais rapide, hein, vraiment en 146. S'il te plaît.
Vivre, c'est dur.
Ah bah tu l'as fait.
C'est dur parce que il y a pas de gentil, il y a pas de méchant. Le monde est incompréhensible. Heureusement qu'on a nos univers de geek avec le méchant Dark Vador en noir et les gentils rebelles. On a le méchant Voldemort en noir contre le gentil Harry. On a le méchant Sauron en rouge teinté de noir contre le gentil Elijah Wood. Est-ce que finalement on ne recrée pas un univers facile à comprendre sur les réseaux sociaux? Un univers rassurant avec ses méchants et ses gentils, son bien et son mal? Est-ce qu'on n'est pas mieux libéré de la réflexion avec seulement deux petites étiquettes binaires à facile à coller? Et justement, quand on se déconnecte, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est, quand on n'est plus sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on, c'est le retour à l'esprit critique et à la nuance? Alors, c'est compliqué. Je vais vous donner un simple exemple. Moi, quand on pose la question, qu'est-ce que tu peux dire du film Valérian? Moi, d'après ce que j'ai lu sur Internet, c'est plutôt de la merde. Et je peux pas en dire plus. J'aimerais aussi parler des blessures. Il y a un effet... Non, mais en plus, c'est vachement triste et vrai ce que je veux dire. Donc, on devrait pas... Vous devriez pas rire. Vous riez, mais vous êtes cruel. Parce que c'est difficile à supporter psychologiquement. Si on te dit ce que tu fais est amazing, forcément, tu vas relativiser parce que tu sais que t'es pas amazing. Mais si on dit que tu fais de la merde, est-ce que tu vas relativiser autant? Moi, je pense beaucoup moins. Donc, on est dans une dynamique d'échange social plutôt négatif. C'est bon, la musique. Toujours dans le négatif, en retweetant ce reportage brut sur des animaux abandonnés, en rajoutant « c'est tellement important » ou « cela mérite une infinité de RT ». On sait très bien, petit connard, que tu n'as rien à branler des animaux et que tu fais ça juste pour du RT et des likes.
Oh putain.
Et c'est quoi la conséquence? C'est que maintenant, même sur Internet, les sujets doivent être dramatiques et simples pour prospérer. Bon, ça, Slate le savait. Et excite les situations complexes, adieu la nuance. Et si tout ça n'était pas aussi le traumatisme scolaire d'avoir subi le jugement de la note? Alors j'avais, là, c'était un petit peu la fin de ma chronique, j'avais dit stop, et là, m'a dit ce serait bien de mettre des chiffres. Alors, j'ai trouvé une étude de Harvard.
Non, mais j'aime bien ton feeling, j'aime bien tes feeling fibres, mais des fois, c'est bien d'avoir des chiffres.
D'après une étude de Harvard sur la question de la nécessité de l'évaluation, de l'évaluation précise, donc de l'évaluation nuancée. 87% des Américains veulent connaître leur performance précisément, mais ils ont peur de la non-objectivité de cette performance, notamment parce qu'elle serait peut-être affectée par les opinions de celui qui la formule. Faites-en ce que vous voulez.
Ok, ça marche.
Ça n'a aucun rapport.
Ok. Quel arnaqueur, putain. C'est de la merde.
On a dit de mettre des chiffres, j'ai mis des chiffres. Bon,
c'est pas amazing, c'était
dernière
de la merde.
Question. A-t-on vraiment besoin de nuances dans le fond? Moi, personnellement, j'en ai pas besoin. J'assume de préférer les likes à la vérité. Alors, ton trait tellement important, j'en ai rien à carrer. Et vous, comment vous gérez ça?
On peut applaudir Fibre. Amazing! Amazing! Alors, on est parti effectivement de plusieurs sites qui ont décidé de retirer de la notation pour juste dire pouce en haut, pouce en bas ou like ou pas like.
Mais c'est logique ça.
Et qui expliquait qu'en fait, quand on donnait le choix aux gens avec une graduation, en fait, à 80%, 90% du temps, les gens, en fait, ils allaient au max, au minimum, plutôt pour donner un avis. C'est le cas de Steam aussi, où il y a les avis positifs ou pas positifs.
Mais c'est quelque chose que je trouve normal.
Sur Internet, qu'on soit obligé
de... Non, mais même, enfin, tu vois, la presse jeux vidéo, quand tu disais console plus avant, le jeu, il a 92%.
Oui.
Ok, cool. Et s'il avait eu 91, on aurait perçu le pourcent en moins ou pas? Ouais. Enfin, ça voulait rien dire, tu vois, de vouloir absolument avoir un panel complet de notes et de taper au milieu.
Mais là, on arrive à l'autre extrême, parce que là, t'as 100 variables et tu passes à 2. Oui, non.
3. Oui, non, peut-être.
Ouais, mais aujourd'hui, sur YouTube, t'as que oui, non, par exemple. Ouais. Et YouTube est en train d'être...
Oui, mais en fait, regarde, par exemple...
Un exemple par beaucoup, c'est genre...
Par exemple, Gamekult, ouais. Quand tu disais, ouais, mon jeu, il a eu 8 sur Gamekult, oh, putain, c'est bien, 8 sur Gamekult, c'est bien. Oui. Alors que les notes vont jusqu'à 10.
Oui.
Mais en fait, de base, tu rapportais la notation maxi... Ah, c'est bien ou c'est pas bien.
Ouais, mais là,
par exemple, 17 sur 20 sur JV.com.
Ouais.
Ça veut rien dire. J'ai pas mettre 17 à tous les jeux.
Non, non, c'est gérant pas.
Tu parles pas de mes collègues.
Oui, pardon, c'est vrai, c'est vrai. Non, non mais là, voilà, donc, en fait, les gens avaient déjà fait ce truc-là.
Là, tu parles vraiment des médias. Là, les médias, ils ont des systèmes de notation, les 4T de Télérama, tout ce que tu veux. Mais là, on parle vraiment des gens. Ce qu'on donne comme choix aux gens entre les notations classiques de 1 sur 10, 1 sur 100, ce que tu voulais, à la généralisation aujourd'hui, des systèmes de notation dont parle Fibre, on passe au pouce en bas, pouce en haut, voire like ou rien. Et aussi à la manière dont les gens s'expriment, qui sont, on ne peut plus dire, j'ai fait quelque chose, c'était moyen cool plus, et on ne peut pas le dire. On peut juste dire que ça devait être génial ou c'était le drame total, en fait.
On ne peut pas le dire quand on a le système cognitif de Fibre Tigre, qui
polarise par exemple, de base. Par exemple, tu veux voir une vidéo YouTube qui est moyenne.
Ouais.
Tu mets un pouce en haut ou en bas?
Tu ne mets pas de pouce.
C'est suivant ton humeur.
Tu ne mets pas de pouce.
Là, tu ne mets pas de pouce.
Tu te sens obligé. Est-ce que toi, tu te sens obligé de noter tout ce que tu regardes?
Non mais Daz, je te retourne la question. Est-ce que tu peux poster des choses qui t'offrent une réaction moyenne? Genre par exemple, tu postes beaucoup de morceaux de hip-hop sur Twitter.
Ouais, ouais.
Je ne t'ai vu poster que des morceaux qui étaient mortels, complètement sous-estimés, absolument écoutés, un énorme classique, etc. Je t'ai jamais vu poster un truc genre j'écoutais ce truc, bon, ça mérite 2-3 écoutes.
Si, je l'ai fait.
Ah ouais?
Ouais, il y a des petits. Si, un petit groupe parisien où c'est 10 petits branleurs. J'ai dit, c'est pas un truc, je me relèverai pas la nuit, mais ça s'écoute, c'est plaisant.
Ok, d'accord. Ouais, ouais, mais tu fais ça souvent ou globalement tu
Bah, il faut que je trouve des trucs merdiques. Et je peux pas non plus, je vais pas m'infliger, tu vois, du hate au listening.
Non, mais quand tu postes.
C'est des trucs cool, c'est des trucs que je trouve cool, mais ça veut pas dire que parce que c'est cool, c'est un classique. Ça peut être cool maintenant et dans un mois, ça sera Despacito, tu vois.
Ok.
Mais par exemple, j'ai juste une question sur Uber. Uber, ouais. Il continue la notation de 0 à 5, en fait.
Ben en fait, Uber, sur aujourd'hui, c'est, en fait, la vraie notation, c'est 4 ou 5. Ou tu mets 5, c'est le truc de base, ou tu mets 4, c'est la catastrophe pour le mec. Mais en fait, ils sont.
Mais si tu mets 1, les mecs t'appellent carrément, ou.
T'as très peu de notations comme ça. Je sais plus avec qui on en avait parlé sur Amazon aussi.
Sauf pour les notes utilisateurs.
Ouais.
J'ai regardé ma note, j'ai 4, je suis vénère.
Ouais, moi, 4,3, je comprends pas pourquoi je suis poli et tout.
Ça m'est arrivé de mettre 1 à un vendeur Amazon, par exemple.
Et
je peux dire que le mec, il m'a harcelé.
Moi aussi,
il m'a rappelé. Et il m'a dit, non, mais ma femme vient de mourir, tu comprends pas, je l'avais mal emballé.
J'avais mal emballé. Oh merde.
Je te jure, texto, le mec m'a dit ça. Il m'a dit, ma femme. Parce que je me dis, c'était mal emballé, le truc est arrivé cassé, tu vois. Et le mec m'a dit, ma femme est morte, quoi.
Sur Uber, c'est un vrai cas, parce que beaucoup de gens en ont parlé après le premier épisode de la dernière saison de Black Mirror, sur la notation des gens où tout le monde devait se noter 5 étoiles.
Spoilez pas.
Et en tout cas, on sait qu'aujourd'hui sur Uber, on note 5 étoiles, pas parce que le mec il était au top du top, c'est qu'on note 5 étoiles en disant bon, je vais pas niquer sa note, quoi, en fait. Ouais. Donc le 5 étoiles en elle-même, il a quasiment plus de.
Mais c'est la note alors en elle-même qui a plus de valeur.
Exactement. En fait, il y avait deux approches
du film. La notation qui a plus de valeur.
Les deux approches du film, c'était la notation n'a plus de valeur, la notation graduée, et deux, on a une même note s'exprimer qui est hyper polarisante, en fait, qui est extrêmement dans le drame YouTube ou dans tout va bien, c'est génial, c'est incroyable. Toi, tu penses qu'il y a encore de la place pour la nuance qui est la substance de la vérité, comme disait Fibre?
Je pense oui. Après, effectivement, là où je rejoins Fibre, c'est qu'effectivement, poster pour dire c'est pas mal, c'est vrai que ça n'a pas trop d'intérêt.
C'est pourquoi ça n'a plus d'intérêt? Est-ce que Fibre a raison en disant qu'on est obligé, comme des tabloïds, de.
C'est comme sur les forums, en fait. Par exemple, les trucs de service après-vente, c'est les gens qui ont eu un problème qui viennent dire ça marche pas. Tu viens pas pour dire vous savez quoi, les gars? Moi, c'est nickel. Allez, salut.
Ouais.
Tu vois, tu ne le fais pas. Donc c'est là, c'est carrément le médium qui t'impose ça. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est tu ne vas pas poster pour dire rien.
Bah, pourquoi?
Non, surtout,
c'est un peu ce que disait ton petit frère tout à l'heure. C'est que c'est aussi cette quête éternelle de l'attention. Où si tu postes un truc moyen, les gens vont dire.
Donc là, tu rejoins Fibre.
Ok, c'est cool. Ta vie.
Sur ce point-là, moi, je rejoins Fibre effectivement.
Ok, Mélissa.
Non mais après, ce que Fibre disait, c'était faut que tout soit génial ou tout soit horrible, enfin ou que ce soit dans des extrêmes. Mais t'as aussi des trucs qui sont vraiment likés, appréciés ou qui sont vraiment beaucoup plus longs et écrits. Où t'as pas juste trop bien machin. C'est juste que c'est la solution de facilité de mettre trop bien, c'est de la merde. Trop bien, c'est de la merde. Après t'as des posts qui font le tour du monde où t'as vraiment.
Oui mais ça fausse notre perception de la réalité. Un exemple pratique, c'est que quand on sort de l'hypnose Game of Thrones. C'est intéressant, mais ça nécessite pas de l'attention que ça a eu sur Twitter et le maelstrom de choses. Mes parents sont au courant de Game of Thrones alors qu'ils n'ont jamais regardé un seul épisode. C'est pas normal, tu vois. Et ça, c'est des avis trop extrêmes sur un truc qui est anecdotique dans le fond.
Après, je pense qu'il y a un côté américain de, effectivement, c'est les Américains qui disent amazing tout le temps et quand on va aux États-Unis, c'est hyper frappant et je pense que ça nous a forcément un peu contaminés.
Je suis pas d'accord avec ça. Parce que les théories aujourd'hui, c'est de se dire que la philosophie de la Silicon Valley, elle sculpte un petit peu la manière dont on interagit sur les réseaux sociaux.
Quand tu es dans une start-up, on t'explique que ce qui est très important, c'est le feedback constructif. C'est-à-dire que si tu as mal fait quelque chose, on t'explique pourquoi. Si on est content de ton travail, on t'explique aussi pourquoi. C'est tout le temps nuancé, expliqué. Donc pourquoi est-ce que on a complètement l'inverse ? Mais
c'est pas la Silicon Valley, c'est juste la façon dont communiquent les Américains. Qui imprègne tout, les séries et les trucs qu'on regarde tous les jours, qui, enfin, tu vois, on fonctionne pas comme des startups au quotidien, et donc forcément, c'est la réaction type, c'est genre, ah, trop bien,
On utilise quand même les produits des startups qui sont créés pour, en fonction de cette philosophie.
Ouais, mais le feedback, il est fait à l'entreprise directement, et c'est pas un truc public qui va faire, qui va générer du like, machin et tout, alors que les réactions dont parle Fib, c'est les trucs faits pour avoir un public, et donc, quand tu veux avoir un public, effectivement, ça, généralement, ça semble plus efficace quand tu dis un truc extrême, quoi.
Est-ce donc on a plus de pouces quand on met des pouces, quoi.
On a plus de pouces quand on met des pouces. Okay.
Quelle vie.
Oui, oui. Quelle vie, c'est beau. Est-ce que dans le public, il y a des gens qui voudraient réagir sur la chronique de Fibre? Je vois une main qui se lève au fond. Monsieur, oui.
C'est toi.
Et après, mademoiselle. Oui, c'est toi, monsieur. Et c'est toi, mademoiselle, après. Donc, sur les deux points dont tu parlais, Fibre, hein, c'est un, le fait que le...
On n'est plus en nuance.
La nuance s'appauvrit. Voilà. Et que deux, du coup, nous, on s'exprime aussi de manière beaucoup plus polarisante et beaucoup plus extrême. Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Jordan, salut. J'ai 24 ans, et je n'ai pas bu d'alcool depuis...
Bonsoir Jordan.
Concernant le sujet qui était abordé, il y a des aspects que j'ai trouvé très intéressants, notamment lorsque tu parlais du fait qu'on est dans un monde qui n'est pas manichéen et qu'on a besoin de se créer un monde manichéen pour comprendre ce qui se passe. Je pense que c'est une part de la réponse, mais il faut aussi prendre en compte le fait que j'ai l'impression que les personnes perçoivent le monde réel, aka le monde du travail et les relations avec les gens autour de nous, et le monde d'Internet comme deux univers complètement différents. Bah, c'est...
Si, les gens le perçoivent, nous, on essaye de dire l'inverse, mais effectivement...
Et c'est qu'en fait, de par cette perception qui est très polarisée, on n'interagit pas de la même façon avec les gens autour de nous. Je vais être... un exemple concret, c'est que le Cyril Hanouna d'Internet, c'est PewDiePie. Et PewDiePie, c'est pas de moi cette phrase, hein, mais bon, c'est pas grave. Et PewDiePie... Et PewDiePie, en fait, il a. Si on le rencontrait en vrai, on n'aurait pas la même réaction que celle qu'on a sur Internet. Sur Internet, c'est très rapidement amazing ou c'était vraiment nul. Ouais. Et en fait, ça, c'est vrai. Cette polarisation, elle est due au fait qu'on perçoit les deux choses comme étant deux mondes différents, deux univers différents. Mmh. Et je pense qu'on a besoin dans notre tête d'avoir cette séparation parce que sinon, on a l'impression que les choses se mergent. Et quand ça se merge, on n'a plus de contrôle et c'est là qu'on a peur.
Voilà. Amazing, je suis tout à fait d'accord avec toi. Non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi.
Tu es moyennement d'accord ou tu es d'accord amazing?
Je suis très d'accord.
Très bien. Mademoiselle qui veut prendre la parole. Merci Jordan. C'est intéressant d'être amazing. Hein. Parce que sinon,
la pression. Bonsoir.
Bonsoir.
Donc moi c'est Estelle. Et mon avis là-dessus, c'est que c'est pas quelque chose de nouveau de voir interpréter les choses de façon binaire. C'est que c'est une réaction humaine primaire. Et même grégaire, et qu'ensuite on va nuancer son propos.
Ah, d'accord.
Mais comme c'est les réseaux sociaux et comme c'est l'effet de groupe, en fait, la première chose qu'on va dire, c'est soit c'est trop bien, soit c'est pourri. Par exemple, un exemple concret, c'est une pièce de théâtre dans des temps immémorables. La première chose qu'on fait, c'est on applaudit, c'est génial, ou on dit bouh et on jette des tomates pourries. Ouais. Ça, c'est pas Internet qui a créé ça, c'est pas les Américains qui disent amazing, c'est les gens qui réagissent comme ça. Et ensuite, quand on sort du coup d'une dite pièce de théâtre, et on dit à ses amis, t'en as pensé quoi? Bah, soit c'est trop nul, soit c'est génial. Et ensuite, on débat, on nuance, on apporte des variations. Comment?
On déroule ses arguments.
On déroule son Fred. Et c'est le cas sur Game of Thrones, par exemple, pour être sur le forum de qualité.
C'était de la merde.
Justement, sur le forum de qualité, il y a des débats très, très, très animés sur pourquoi c'est de la merde, pourquoi c'est pas de la merde, et pourquoi c'est moyen, mais c'est pardonnable parce que.
Ouais.
Et ça prend 300-400 messages.
Qu'est-ce que vous pensez de cette théorie?
Moi, je trouve que c'est une
amazing, encore d'accord.
C'est une théorie très, très, très intéressante. Alors,
donc,
du coup, question.
Ce qu'elle disait, donc, ça se fait en plusieurs temps. On démarre par quelque chose qui est très binaire, et ensuite, la nuance, qui est, je rappelle, la substance de la vérité selon Fibre, même s'il préfère les likes à la vérité, la nuance ensuite se déploie.
Ouais. Et donc, on ne peut pas le faire sur les réseaux sociaux parce que le format empêche de le faire.
Donc là, on revient à la chronique de Mélissa où tout est saucissonnant dans la place pour rien.
Donc, ça veut dire que si on pouvait, en un tweet, encore une fois, faire péter cette barrière des 140 caractères, on pourrait être beaucoup plus nuancé sur les réseaux sociaux.
Et on passerait de la réaction à la réflexion.
Non, mais je vous pose la question. Est-ce que sur Twitter, si on enlève les likes, mais on met des notes 1 sur 10, est-ce que les gens vont préférer ça ou pas? Ou est-ce qu'ils préfèrent pas juste mettre un like pour dire...
Noter les tweets...
Imagine, c'est possible. Je te rappelle qu'il y avait beaucoup de sites qui avant permettait de noter les choses. Amazon le permet encore.
Oui, mais parce que le like sur Twitter, enfin moi en tout cas, la façon dont je m'en sers, c'est juste pour dire au type qui a répondu, je t'ai vu. En fait, j'ai lu ton tweet. Ça veut pas dire que je l'ai aimé.
Quelle célébrité se dase.
C'est ça, de bosser pour Webedia. TMTC.
Non, mais sur Facebook, regarde, tu peux liker, tu peux pas unlike d'ailleurs, mais tu peux pas noter. Comme on peut noter un film, par exemple. Aujourd'hui, tu peux réagir, mais tu ne peux pas graduer.
Tu peux grrr, par exemple.
Ouais. Oui, mais en général, tu grrr quand la personne, elle a dit, c'est triste parce que je viens de me casser la jambe, mais là, tu grrr.
Ah non, genre... là, je like.
un cœur.
Écoute, on est en retard, dans un moment, on a plus le temps. Non, non, mais Fibre disait aussi, voilà, est-ce qu'à un moment, c'est pas plus simple aussi, à un moment, de noter comme ça que d'avoir des barèmes aussi où c'est compliqué? Est-ce qu'on met 14, 16, 12?
Est-ce qu'on a le temps de tout noter aussi?
Je sais pas.
C'est ça, hein, ça va vite. Bah,
j'ai l'impression qu'on a, c'est un des marronniers de 404, c'est que les gens ont un avis sur tout et ils l'expriment tout le temps. Donc à un moment, pourquoi est-ce que quand on leur donne plus de choix, c'est peut-être pas le meilleur choix?
Mais alors ça veut dire que, juste question là, petit sondage rapide, quand vous regardez un truc, vous allez systématiquement dire ce que vous en avez pensé.
Bienvenue sur les réseaux sociaux, Daz.
Non, question, parce que c'est pas comme ça que je fonctionne, mais.
Moi, je me rends compte que oui. Comme beaucoup de gens, je sors d'un film, je sors d'un épisode de Game of Thrones, j'ai vu une belle voiture, des belles choses.
Systématiquement, pour tout ce que tu lis, tout ce que tu vois.
Non, pas tout, mais beaucoup de choses, quand même. Mine de rien, je crois que si on regardait les historiques qu'on a, on exprime énormément de choses quotidiennement, quand même. Et on donne un avis à chaque fois. On a rarement des choses qui sont purement descriptives, genre, j'ai vu un arbre.
Il était beau.
N'empêche qu'un tweet d'un mec qui tweeterait tout le temps, j'ai vu un arbre, j'ai croisé un pigeon, ce serait peut-être un compte intéressant.
Mais c'était Twitter au départ, ça, en fait.
C'est pas ton compte Snapchat?
Non, son compte, c'est j'ai vu un.
Bah, j'ai beaucoup d'abonnés.
J'ai vu un pigeon et il était super. Tu
même
vois
pas, même pas, même plus.
Est-ce qu'on a juste une dernière réaction des gens? Il y a des gens qui agitent, mais vous avez déjà pris la parole ou pas déjà?
Non.
Bonsoir.
Bonsoir. Donc, moi, c'est Sam. Et en fait, on n'a pas abordé le temps. Parce que pourquoi on réagit? Parce qu'on tout le temps on parle de réagir, mais c'est juste sur Internet, sur Twitter, Snapchat, on n'a pas le temps de développer une pensée. On nous demande tout le temps de réagir et on sait que c'est le seul moyen de se faire remarquer, voire dans le fil d'actu. Et donc du coup après ça structure. Et même quand parfois on a des sondages, enfin ils demandent notre avis, quand tu essayes de donner un avis nuancé, t'as tout de suite vous pouvez pas donner d'autres commentaires pour nous expliquer pourquoi. Et là on dit la note ça devait suffire.
Donc là c'est l'intervention de Sam, ça va entre Estelle. Et fibre un petit peu.
Donc c'est la faute des autres, t'es en train de dire.
Non, il y a un manque de temps. Il y a trop de contenu finalement sur lequel on doit déjà donner son avis.
Ouais. Donc en fait, ça suit. C'est vrai que c'est drôle les trois interventions suivent, mais je dirais pas qu'il y a l'aspect grégaire, mais c'est juste le temps. C'est des moyens de communication où t'as vraiment un petit tweet de 140 caractères, un snap de 10 secondes. Donc si tu commences à développer, tu vas perdre l'auditoire ou quoi que ce soit.
Donc tu n'as pas le temps.
Yes.
Ton esprit est ailleurs.
Voilà, un peu comme cette chronique.
Je vois qu'il y a quelques connaisseurs. Très bien, je pense qu'on a fait le tour de ce sujet. Merci Sam. C'est bon Fibre? C'était amazing ou pas comme retour? Ou c'était de la merde?
Tout le monde est amazing.
C'est vrai?
Oui.
Moi je te mets 12,75 sur 15.
Non, c'est l'émission de l'amour.
Studio 404. L'émission de société numérique.
C'est la fin de ce studio 404 de septembre de la rentrée. On peut applaudir les chroniqueurs, c'était amazing. Vous pouvez vous applaudir parce que vous êtes formidables. Comme disait Dorothée dans le club Dorothée. Merci beaucoup chers chroniqueurs, merci Daz, merci Mélissa, merci Fibre, merci Sylvain d'avoir apporté encore des avis combien éclairés et très objectifs, bien sûr.
Merci l'âme pour ton animation.
Merci Gislain pour la réal,
pour avoir porté tout le matériel.
Merci aux auditeurs qui sont venus nous voir en live alors qu'on a organisé l'événement il y a 48 heures. C'est un peu comme Amazon Prime, tu demandes des auditeurs, ils arrivent en une heure. Ça c'est vraiment vraiment la classe. On espère que vous appréciez. On espère que vous allez acheter des oreillers. C'est quoi? Il y a des matelas.
Des matelas.
De chez Casper.
55€ de réduction.
Voilà. Grâce au code. Attends, c'est le code Spectre.
Et est-ce que je peux juste rajouter
Spectre,
un truc?
Comme le fantôme Spectre. Oui, Casper. Oui.
Ok Google. C'est juste pour énerver les mecs qui ont un Google Home chez eux.
Ah, ça active la tablette.
Mais là, faut que tu. Voilà. Autre chose ensuite.
On peut le refaire.
Ok Google, genre. Achète des œufs, des préservatifs, de la lessive en grande quantité.
C'est bon ça.
Je sais pas ce qu'on peut faire avec ça d'ailleurs.
C'est des du hacking, lessive, c'est du hacking.
Ok Google, vidéo Sacha Gray, volume 100%. On verra si ça marche. On vient de vous hacker, on espère que vous êtes heureux.
Ça a marché là-bas apparemment.
Ah là 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 là. On espère, chers auditeurs, que vous êtes contents que vous vous ayez laissé là parce que vous écoutiez évidemment ce 404 dans un open space. On se retrouve en tout cas, nous, le mois prochain. Il y a plein de belles choses qui arrivent puisqu'on prépare des événements. Mais il y a aussi le nouveau Trajectoire qui est publié. Il y a le nouveau C'est cool, c'est quoi qui parle de sport imaginaire. Bref, un gros programme de qualité. Merci encore de nous avoir écoutés.
Ouais, c'est bon, moi je valide.
C'était de la merde comme. Non, c'était amazing comme
disons. C'est de la nouvelle langue.
C'est de la nouvelle langue. Merci beaucoup et surtout un gros bisou à la iGen. Ciao.
Bisous à la iGen.
Bye bye tout le monde.
Merci. Ciao.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.